Vous êtes chef d'entreprise ou conjoint d'une entreprise artisanale et vous êtes non salarié? Savez-vous que vous contribuez chaque année pour bénéficier d'un financement de vos formations? Rendez-vous sur le site fafcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Donc Tudor arrive un petit peu comme ça, comme le lait sur le feu.
Il a été adoré dans les clubs par lesquels il est passé, avec sa technique particulière et ses dribbles, plus à louper. C'est un footballeur un peu brésilien.
Est-ce que pour toi, à ce moment-là, il est ballon d'orisable, entre guillemets ballon d'orisable, mais il devient ballon d'orisable. Si on parle d'un objectif ballon d'orisable, il devient ballon d'orisable.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Génération After et bonjour à toi qui nous écoute en podcast à Génération After comme tous les soirs de 20h à 22h avec ce soir Jonathan Macardy. Bonsoir Jonathan.
Salut Nico.
Alors Jonathan lyophilisé, l'homme qui pèse 45 kilos désormais, à deux jours du main event. C'est ça?
Non, c'est pas le main event.
Jeudi soir ton combat.
Jeudi soir.
C'est important.
Je n'ai pas eu.
C'est un cadeau, il paraît.
Oui, 8 fois champion de France.
Attendez là, toi, ça y est.
Non, lui, il est 8 fois champion.
Oui, mais t'en es là à affronter un mec qui est 8 fois champion de France.
Écoute, c'est le moment de prouver, non?
Je pense qu'on va essayer de faire un petit live jeudi soir.
Ah,
on va sur la station en direct. Hein. C'est à quelle heure,
20h30? 20h46, dans le running order.
On sera en direct pour ton combat jeudi
avec
soir.
Le maillot de l'after, je rentre.
Ah bon?
Évidemment, avec tous mes sponsors derrière, chose que tu ça t'a bien fait marrer.
Ouais,
bien sûr.
Kevin Diaz est dans la place ce soir. Salut Kevin.
Salut à tous.
Et Sofiane Zouaoui de Winamax FC. Salut Sofiane.
Salut Nico. Salut Kev. Salut Joe.
Heureux de te retrouver.
Bah moi aussi, très très plaisir à chaque fois. Ça me fait très plaisir à chaque fois d'être là.
Et oui, t'appelles Joe maintenant que son patron est américain.
C'est vrai,
ouais.
Je me suis américanisé sur les derniers mois. J'essaie de me faire. S'il y a un poste à gratter d'ailleurs, John. Je suis disponible.
T'as voté pour ou contre toi alors?
Non, moi j'ai rien voté du tout, on me l'a imposé.
Et t'aurais voté qui?
Hein? Pour, c'est-à-dire?
Bah pour ou contre l'éviction de Jean-Mi.
Ah bah moi j'avais fait un avis ici, j'ai dit qu'il fallait qu'il parte.
Ah voilà, il est vraiment en train de chercher un taf à l'Olympique Lyonnais quoi.
Tout à fait, on repart à zéro.
Au programme de Génération After ce soir, Karim Benzema a une offre saoudienne sur la table pour la saison prochaine. Il n'y est pas insensible, est-ce le bon moment pour lui de quitter le football européen? Kevin, tu veux revenir sur l'hémorragie qui va toucher Toulouse et qui touche déjà Toulouse. Pour toi, c'est la validation positive de la politique d'attaque du TFC. T'es pas d'accord avec ce qu'a dit Daniel hier dans l'after. On en reparlera. 20h45, notre invité, le capitaine du Stade Brestois, ami d'RMC, ami du Super Moscato Show, hein, Bredan Chardonnay, sera avec nous après un brillant maintien en Ligue 1. 21h, Franck Haise, qui sème le doute sur son avenir à Lens. À quoi joue-t-il? Et quand il son image, on écoutera le directeur général Arnaud Pouille, hein, que Jean Baumel vient de rencontrer. Avis de Sofiane à 21h15, Alexandre Lacazette et le mal-aimé du football français.
On va essayer de faire chialer un petit peu les auditeurs.
Et Jonathan est inquiet pour le foot français justement. Incertitude chez les entraîneurs de nos locomotives. Marseille, Paris, Monaco, Lyon. Peut-être, voilà le programme de Génération After. Et à 22h comme tous les soirs, Gilbert Bribois. Salut Gilbert.
Salut les gars. Donc le moi je suis pour le live jeudi là de...
Arrêtez de mettre la pression.
C'est sur Twitch
ça.
Le combat?
Bien oui, sûr. Oui, c'est en direct sur Twitch.
Sur la chaîne RMC Sport.
Ouais. Oui. Plus apparemment il y a Laurent Salvaudon dans la salle. Il y a des gens. C'est beaucoup déjà là. Beaucoup, non?
Salvaudon qui est le directeur de la rédaction.
Donc là, si tu gagnes, tu es champion de France.
Mais je suis déjà gagné des. Non. J'ai gagné un super fight contre le champion de France.
D'accord, un super fight. Hein,
ouais,
on dit comme ça.
C'est ça qu'on dit, ouais. Et ouais. C'est un combat éliminatoire pour la ceinture des moins de 66 kilos de l'organisation.
Voilà. Magnifique.
Prize money?
Ça se dit pas. Mais je reverse tout.
Quand on dit pas, c'est que c'est 200 euros le prize money.
Non, c'est un peu plus, mais je reverse tout à mon club.
Magnifique. On va donner ça à l'after peut-être, hein.
Ben non, c'est pour les petits jeunes du club qui n'ont pas d'argent pour faire les compètes.
Pour les petits jeunes de Génération After aussi.
Je pense que Sofiane est riche et Kevin est un mania de l'immobilier maintenant. Donc
ah
c'est bon,
bon.
Ah non, Kevin, oui, mais Sofiane, il a des frilettes.
Ouais, c'est du faux argent, mon pote. Hein.
Oh, tu sais, maintenant, avec les bitcoins, c'est tout est du faux argent.
Bon, alors nous aussi, on aura des super fights avec Laurent Gautreau et voilà. Daniel Riolo tout à l'heure à 22h. On donnera notre avis sur l'avenir de Karim Benzema. On parlera des futurs coachs de Paris et de Marseille avec quelques analyses afteriennes bien pensées, avec quelques petites infos. Vous allez voir, c'est intéressant. Et puis un petit mot sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Turin pour la Juve, à Munich pour le Bayern, avec l'Assemblée Générale du Bayern. Paulo Breitner et Johan Crochet seront là. Avant un gros dossier ce soir que Jonathan va adorer, mais vous aussi qui nous écoutez, parce que je sais que vous aimez ça.
André-Pierre Gignac?
Non, elle est traître dans le foot.
Ah.
Toi, je sais que t'aimes les traîtres. Hein.
Non, lui, il aime les garces.
Différent.
Oui, bon. Excuse-moi.
Traître envers les arbitres, traître envers les autres. Oui, c'est pareil. Allez.
On te connaît.
Je l'accepte.
Mais en même temps, il y a les traits qu'on aime bien, puis il y en a qu'on déteste. Donc on va s'amuser comme ça à faire chacun notre petite liste. Voilà, c'est à la une de la revue de l'After. Et vous allez voir que c'est passionnant. Je ne sais pas si à Lyon, il y a des traîtres en particulier, Sophie.
Il a failli, par exemple, Steve Malbranche. Ouais, il est allé à Saint-Etienne, il a fait le tour du proprio, il s'est dit non, finalement.
Ça a duré combien de temps déjà?
Ça, c'est Anthony Mounier.
Non, mais Malbranche l'a fait aussi. Ouais.
Mais combien de temps ça a duré?
Franchement, ça a duré. Bah, il a même pas.
Trois semaines.
Juste posé la... Non, même moins, je pense. Hein. Il a juste posé avec le maillot. Et
donc, traître, c'est le mec qui part à Saint-Etienne. Mais celui qui vient de Saint-Etienne, non, c'est pas un traître, lui.
Bafé Gomis,
il y a eu des moments compliqués dans son acceptation à l'OL, hein, Gilbert. Ah, après, traître dans le concept foot.
Valbuena.
Valbuena pour vous?
Ah, pour vous, c'est un traître. Oui, évidemment, la potence, etc.
Oui, pourquoi pas. Oui.
Karim Rekhi qui le découpe dans les dix premières minutes, là.
Bon, enfin, voilà, ce sera tout à l'heure, à partir de 22h.
Ah, tout à l'heure, Gilbert, vous nous appelez au 3216, le hashtag RMC Live pour vos messages, vos questions sur Twitter et puis l'application RMC Sport, RMC Direct Studio pour envoyer vos commentaires. Également, c'est parti pour 2 heures de Génération After. D'abord, le tennis. C'est Roland Garros. Je sais que Jonathan, tu es sensible à la cause des Français sur terre battue.
Bien sûr.
Nous allons trouver Anthony Reich, notre envoyé spécial. Salut Anthony.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Et bien français, Richard Gasquet.
Plusieurs,
sur le cours, ouais. Plusieurs même actuellement.
Ouais, tout à fait. Richard Gasquet qui est dos au mur là sur le cours Suzanne Lenglen face à son compatriote Arthur Hinderknecht. Arthur Hinderknecht qui mène 2-7-1 et 5 jeux à 1 dans la quatrième manche. 30-15 sur le service d'Arthur Hinderknecht qui est à 2 points du match. Et aussi sur le cours 7, il y a une belle bataille entre Quentin Alice et Guido Pelia, toujours un client sur terre battue. Et Quentin Alice mène 2-7-1, 4-4 dans la quatrième manche. Mais c'est vrai qu'on sent que Richard Gasquet, c'est compliqué pour le Biterrois là, physiquement notamment. Il peine face à la puissance de frappe d'Arthur Hinderknecht, qui n'est pas pourtant un spécialiste de terre battue, mais là il essaye avec l'orgueil. Il était mené 5-0, il a sauvé déjà un peu la cause Fanny sur cette quatrième manche, et là il a une balle de break pour revenir à 5 jeux à 2 dans ce quatrième set.
Tout à l'heure, Anthony, Karim Benzema, donc ancien Lyonnais bien sûr, les médias espagnols qui affirment aujourd'hui que le Français a une offre saoudienne sur la table. Le quotidien AS évoque un montant de 400 millions d'euros. 400 millions d'euros pour 2 ans de contrat, plus un rôle lucratif d'ambassadeur de la candidature saoudienne pour le Mondial 2030, sur le modèle de ce qui est proposé à Léo Messi. Je précise que tout ça, à toute fin utile, est net d'impôts. Hein. Quand tu vas en Arabie Saoudite, tu ne paies pas d'impôts. Voilà, tout va bien. Dans la poche. On peut vous confirmer qu'il a été sollicité par les patrons du foot saoudien, mais il n'a rien décidé, même s'il est loin d'être insensible à l'approche saoudienne. Hein. Alors, on lui dit très simple, on lui dit, tu pourras choisir le club que tu veux.
Ah, c'est incroyable.
Regarde le classement, tout ça. Ouais, tu choisis.
Ouais, c'est cool.
C'est cadeau. Benzema, je rappelle, est en fin de contrat au Real. Il a une clause ballon d'or qui reconduit automatiquement son contrat d'une saison. Il ne l'a toujours pas validé. Il est en pleine hésitation. Comprendriez-vous qu'il choisisse à 35 ans, après 14 saisons au Real, de prendre le large façon Cristiano Ronaldo? Vous nous appelez en 32-16 pour en débattre. C'est parti, messieurs. Qui veut commencer là-dessus? Kevin, est-ce que tu serais choqué d'apprendre que Benzema, là, à 35 ans, décide de rejoindre l'Arabie Saoudite?
Moi, je vais te dire, moi, je suis choqué de rien aujourd'hui dans le football moderne. On parlait tout à l'heure avec Gilbert des traîtres. Moi aujourd'hui.
Alors triste, hein? Peut-être.
Non, je serais même pas triste. Je serais même pas triste parce que je trouve que Karim Benzema, il a fait une carrière exceptionnelle. Il est dans le plus grand club du monde. Il a tout gagné en club, en tout cas. Il est maintenant sur sa fin de carrière. Et il arrive dans sa 36e année, donc je ne lui en voudrais pas, et de toute façon je n'ai pas à lui en vouloir, mais je ne lui en voudrais pas du tout d'aller cacher ou d'aller prendre de l'argent en Arabie Saoudite, parce que aujourd'hui le Real et ses exigences, je trouve quand même que le Real, malgré qu'ils aient reconduit notamment Luka Modric pour l'an prochain, ça reste une forme de reconstruction avec Jude Bellingham qui va arriver, avec peut-être un attaquant qui va devoir très rapidement remplacer Karim Benzema. Donc moi je trouve que s'il a envie d'y aller, si l'offre est vraiment très lucrative, qu'il y aille, parce que il lui reste encore peut-être aller 1 ou 2 ans de haut niveau. Mais s'il préfère les jouer, parce que c'est pas un joueur qui a gagné des milliards non plus par rapport à Messi,
ça,
Ronaldo.
Ça n'a jamais été le plus gros salaire
par rapport à sa carrière.
Si il va 2 ans dans un club, dans un plus petit championnat, clairement, mais où la monnaie est très intéressante, moi je le reprocherai pas et je trouverai ça entendable.
Est-il trop tôt pour Karim Benzema de quitter l'Europe hein, et de partir vers les horizons exotiques? Je rappelle ses stats cette saison. Hein. On dit oui, la saison est moins bonne que la précédente, qui était absolument extraordinaire. Il a quand même mis 22 buts cette saison en 33 matchs joués. Mm. Il en a banqué beaucoup également.
Oui, c'est parce qu'il y a eu pas mal de matchs où il est blessé, parce qu'il a eu pas mal de problèmes physiques. Et ça, ça doit aussi rentrer dans sa réflexion, à mon avis. Moi, je vais aller même plus loin que Kevin. Et ça m'embête, en fait, de ne plus le voir sur les terrains européens. Mais moi, je trouverais totalement dingue qu'il n'y aille pas. Par rapport à l'offre financière qui est j'allais dire indécente, mais qu'est-ce qui est indécent dans le foot aujourd'hui? Mais je trouve que c'est une offre financière pour moi qui ne se refuse pas. En plus, je me dis aussi que est-ce que c'est pas le meilleur moment? Alors, peut-être qu'on aura le débat pour le Real Madrid après, parce que pour moi, c'est le pire moment pour le vendre. Mais du côté de Karim Benzema, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour partir? Il sort d'une saison où il a atteint son objectif individuel qui est le Ballon d'Or, qui récompense toute sa carrière. En termes d'accomplissement, c'est le joueur le plus titré du Real Madrid. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Évidemment, gagner toujours des trophées, une Ligue des Champions, ça peut être intéressant, mais il a déjà assez mangé. Puis il y a l'accomplissement qui lui manque, par exemple, aller chercher le nombre de buts de Cristiano Ronaldo, mais il a 100 buts. Donc tu vois, même à ce niveau-là, si tu vas chercher dans les petits détails d'accomplissement individuel, je pense qu'il a fini le game, si je peux me permettre de parler comme ça. Donc rien d'un point de vue juste personnel, sans même mettre dans la balance l'oseille qui est très important dans ce cas-là, puisque c'est une offre quand même avant tout financière, je me dis que pour lui, c'est peut-être le moment d'y aller, tu vois. Donc, même si ça m'embête.
Tu dis pas que, par exemple, c'est le débat qu'on avait pour Messi également, s'il était amené à rejoindre l'Arabie Saoudite, un petit tour à Lyon. Symboliquement. Ce serait pas magnifique, absolument superbe. Je sais que t'es pas naïf, hein, Sofiane.
Oui, j'adore les fleurs, j'aime beaucoup aussi le petit bruit de la flûte, mon ami Nico, mais je crois que j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que, pour moi, c'est un joueur qui, il l'a dit de manière très claire, qu'il souhaitait pas revenir à l'Olympique Lyonnais, en tout cas, qu'il finirait au Real Madrid. Donc, ce qui peut le faire partir du Real Madrid, c'est soit une fin de carrière au Real, ce qui aurait été une possibilité, soit une offre financière comme celle de l'Arabie Saoudite. Et pour moi, c'est difficilement. Si c'est dans ce qu'on entend, je sais pas si t'as donné les chiffres tout à l'heure de manière, t'as donné oui les droits, il avait aussi 100% des droits sur sa carrière. Pour moi, c'est impossible.
100%
de
droits d'image.
Voilà, droits d'image, c'est impossible de refuser.
C'est évidemment une offre qu'on peut pas refuser financièrement parlant. Après, je pense que Benzema peut et se doit de la refuser. Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que je pense que contrairement à ce qu'on pouvait penser après les polémiques, après l'affaire de la sextape, par rapport à la personne, l'homme qu'il était lorsqu'il quitte l'Olympique Lyonnais. Je pense que Benzema, c'est devenu une figure qui est extrêmement respectée, qui a été anoblie par les amateurs de foot. Et je pense qu'une fin de carrière en blanc au Real Madrid, un petit peu à la manière de ce qu'a fait Zinedine Zidane, ça collerait parfaitement avec le storytelling de la carrière de Benzema. C'est-à-dire que c'était l'adjoint de Cristiano qui petit à petit a fait ses preuves et qui a fini au sommet du football mondial avec ce Ballon d'Or. Donc je pense que il faudrait qu'il. Laisse-moi finir. Je pense qu'il mérite en termes d'histoire cette fin de carrière. Le deuxième point, c'est que je suis désolé, pour moi, il n'a que 35 ans. Certes, il a une saison qui a été émaillée de blessures, mais il y a eu la Coupe du Monde qui est venue un petit peu au milieu de la saison pour bouleverser tout ça. Et je pense qu'il en a encore très largement sous la semelle. Et la troisième des facteurs, c'est simplement que je vais radoter, mais maintenant on n'en a plus rien à faire. C'est devenu banal de se dire qu'un pays qui découpe des journalistes dans des ambassades puisse se payer les plus grands footballeurs au monde. Et puis c'est tout à fait normal que ces joueurs de foot, sous couvert de se faire de l'argent, puissent accepter d'aller représenter un des pires États en termes de démocratie, en termes de respect des droits de l'homme au monde. Donc je pense que l'argent, c'est une chose, les valeurs et le fait de pouvoir se regarder dans la glace, c'en est une autre. Et par rapport à l'image de Benzema, qui pour moi, je trouve qu'il s'est construit une très belle image. Je trouverais ça magnifique qu'il refuse cette offre-là. Et je le répète, il en a encore sous la semelle. Et t'évoquais un point intéressant, Sofiane. C'était le point du Real Madrid. Eh ben oui, malheureusement, je pense que c'est l'année ou jamais pour le Real de procéder au remplacement du numéro 9. Il y a un joueur qui est en fin de contrat très bientôt, qui va être mis, je pense, sur le marché pour des raisons financières cet été, qui pour moi est le successeur annoncé au poste de numéro 9 au Real Madrid. C'est Harry Kane. Mais rien n'empêche Karim Benzema de faire une pige pour assurer la transition. Et très franchement, de voir finir sa carrière au Real Madrid, pour moi, c'est absolument mon rêve.
Bon, sachez que le Real aurait déjà acté l'arrivée de l'attaquant de l'Espagnol Barcelone, Rossellou, hein, 34 matchs de Liga, 16 buts en prêt. Ouais. Le Real est prêt à prendre 100% du salaire du joueur, un troisième meilleur buteur de Liga. Évidemment, ce ne serait pas le numéro 9, hein, numéro 1 du Real.
C'est pas Harry Kane.
Ce serait
un joueur d'appoint. Mariano Diaz.
Ouais, qui est même plus un joueur d'appoint, Mariano Diaz. Ouais. C'est dingue, hein.
Il a une carrière de gardien numéro 2, Mariano Diaz.
Il a une carrière à Lyon, surtout.
Mais en plus, il voulait, apparemment, son agent voulait quand même qu'il prolonge, quoi.
Ah ouais, ouais.
C'est complètement. Bon, appelez-nous 32-16 pour en débattre, hein. Est-ce que vous comprendriez le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite? On va prolonger dans Génération After. D'abord, le tennis. Il est 20h15. Vous écoutez RMC, Richard Gasquet. Et sur le court, face à un compatriote, Anthony Reich.
Ouais, il est toujours en vie, Richard Gasquet. Nico, il est revenu à 5-3 dans ce 4e set mené par Arthur Hinderknecht. Hinderknecht qui mène 2 manches à 1. Il a eu des balles de match, mais il n'a pas réussi à concrétiser. Et la belle réaction d'orgueil de Richard Gasquet qui se met à nouveau à mieux jouer. Et cette fois-ci, pour la 2e fois de la rencontre, eh bien Arthur Hinderknecht va servir pour le gain de ses premiers tours.
À tout à l'heure, Anthony, on fait une pause. On va dans un instant Génération After avec Sofiane Zouaoui, Kevin Diaz, Jonathan McCarty. On prolonge sur Karim Benzema. Je vous rappelle qu'on aura notre invité à 20h45, Brendan Chardonnay, capitaine du Stade Brestois. Vous nous appelez dès à présent au 32-16, supporter Brestois. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Comprendriez-vous que Karim Benzema choisisse l'Arabie Saoudite à 35 ans alors qu'il a un an de contrat sur la table au Real Madrid? Encore avec Kevin Diaz, Jonathan McCarty, Sofiane Zouaoui de Winamax FC. On est ensemble jusqu'à 22h sur RMC. C'est Génération After. Dans un instant, Hicham arrive au 32-16. Beaucoup de réactions sur Direct Studio, bien sûr, sur le sujet Karim Benzema. Sylvain qui te rejoint, mon cher Jonathan. Bonsoir, effectivement. Si cela est difficile pour lui en ce moment, peut-être vaut-il mieux tenter de toucher quelques 400 millions d'euros dans un pays douteux quant aux droits de l'homme. Plus rien ne m'étonne. Cordialement. Il y a Younes qui nous dit bonsoir. Moi, je trouve ça honteux. C'est honteux de proposer un salaire de 400 millions d'euros à un joueur déjà riche. C'est vrai, je vous entends, les gars, en fait. Vous dites, s'il peut toucher un énorme chèque, cachetonner en Arabie Saoudite, il a raison de le faire. Moi, c'est une logique que j'ai encore du mal à entendre. Peut-être très vieille école. On parle d'un gars qui est millionnaire, multimillionnaire, qui n'aura pas besoin d'argent ni pour ses enfants, ni pour ses petits-enfants, ni pour personne dans son entourage, sa famille élargie. Et il faut cachetonner. Je suis pas dans le logiciel d'un joueur de foot, hein, type Messi, Ronaldo et Benzema. Et évidemment, je ne dis pas que je refuserai, mais moi, je ne suis pas un footballeur. Évidemment, je prends. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui anime ces gars, en fait?
Mais en fait.
Même qu'est-ce qui anime ces gars qui vont encore post-carrière gagner beaucoup d'argent?
C'est simplement la distorsion de la réalité auquel ces gens font face au quotidien. Et ça, c'est très difficile de le juger. Tu sais très bien, Kevin va nous l'expliquer mieux que moi,
mais
que
dans je connais pas des
Kevin, t'as joué en D2. Je suis sûr que même en D2, vous compariez les salaires avec des échelles de comparaison.
C'est aussi RMC Sport, on peut comparer les salaires, c'est pas.
Ce qui est marrant, c'est que Nico, quand tu parlais, je voyais qu'au fond, tu croyais pas à ce que tu disais.
Ah si.
Non, mais dans le sens où.
Mais tout le monde dit l'argent appelle l'argent, c'est un dicton, mais comme c'est un peu éculé. Non, ok. Mais
l'argent appelle l'argent.
On en a jamais assez, on dit ça aussi.
mais le cas Karim Benzema, et tout à l'heure tu en parlais, c'est le même que pour tous les joueurs. Sofiane parlait du fait qu'il est arrivé à un moment de sa carrière où il a tout gagné. Mais en fait, pour ces joueurs-là, être bien payé, c'est aussi un accomplissement.
Voilà.
C'est-à-dire que à partir du moment où tu gagnes plus que les autres, tu rentres dans une catégorie de joueurs je pense que ça existe.
Et là, tu te bats contre la nature humaine.
Tu te bats contre la nature humaine.
Non, je sais bien, c'est une question philosophique.
Et tu vas partir sur peut-être être la star d'un projet, la star d'une ligue,
d'un pays, tout simplement.
D'un pays à l'image de Cristiano Ronaldo et Messi. Il y aura 3 stars, et donc ce sera aussi pour eux une façon de mettre en valeur leur carrière dans un championnat qui ne met plus en valeur leur carrière footballistique.
Mais
Benzema, c'est pas le cas.
Est-ce que tu comprends quel est le raisonnement?
Pour Benzema, ça marche pas.
Mais si, pour Benzema, ça marche aussi, puisque il fera partie de ces joueurs qu'on recrute en leur donnant les pleins pouvoirs. On te recrute et tu choisis ton club.
C'est le rêve de mégalomanie. Après, voilà. Moi, j'en profite pour saluer le contre-exemple parfait. C'est un joueur de 37 ans qui a gagné son 5e titre en étant décisif en finale dans un retournement de situation incroyable avec contre les Chivas. C'est André-Pierre Gignac.
Qui ne gagne pas 20 000 euros brut par mois au Mexique.
Mais il gagne très bien sa vie, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas non plus des sommes folles. On est dans une autre sphère. Je crois qu'il est à 3-4 millions d'euros net par an, ce qui est énorme déjà. Il a accepté de baisser son salaire parce qu'il a 37 ans, évidemment. Mais je pense que André-Pierre Gignac aurait pu aussi céder aux sirènes et aux tentations de destinations plus exotiques de ce genre de pays.
Millions,
mais évidemment,
ans.
Pas ouais. 400 millions.
Benzema n'est
mais,
pas génial.
Non, mais Sofiane, Gignac n'a pas gagné les mêmes sommes d'argent que Karim Benzema dans sa carrière. Donc il en a peut-être encore plus besoin.
Là, c'est pas un arbitrage, et je peux comprendre que le débat il fasse vomir sur un certain point, mais c'est pas un arbitrage de quelques millions d'euros, Nico. C'est un club qui te donne 400 millions sur 2 saisons. Donc moi, je veux bien rentrer dans une une idée de dire que tu as déjà assez gagné, est-ce que c'est bien d'accepter ou pas, etc. Moi, je veux bien rentrer dans ce débat-là, mais je suis assez fataliste sur cette idée, parce que c'est des sommes trop conséquentes, et elle est tellement indécente, la somme, que moi, je retourne même le sujet dans le sens opposé, c'est de me dire que, est-ce que tu peux te permettre de refuser ça? Donc, surtout pour un...
Oui, mec, je te réponds, surtout, il peut se le permettre.
Ouais,
bah, je dis ça, de dire ça, c'est pas indécent.
Je suis pas certain.
Attends, je te pose la question, Sofiane.
J'ai besoin d'argent.
Sofiane, mets-toi à sa place. Moi, je te pose une question. Ouais. Est-ce que tu accepterais, si je suis, mettons, allez, je suis Mohamed Ben Salman, tu sais ce que j'ai fait, à l'affaire Khashoggi, etc. Tu sais que je découpe, contrairement à toute convention internationale, des journalistes dans des ambassades en Turquie, etc.
Un journaliste, c'est Jamal Khashoggi.
Est-ce que tu accepterais que je te donne de l'argent contre ton image?
Ben après, je ne sais pas, parce que je suis pas dans cette situation-là.
Mais ton échelle de valeur, elle te gênerait pas?
Mais Jonathan, peut-être, certainement. Mais est-ce que lui fait ce lien? C'est ça aussi la question. Est-ce que lui se dit pas simplement, je vais aller jouer au football dans un pays comme l'Arabie Saoudite, on me donne tant d'argent, je vais représenter une ligue. Dans ce cas-là, tu vois, est-ce que vraiment tu penses qu'il fait ce lien géopolitique? Je n'en suis pas certain. Est-ce qu'il devrait le faire, peut-être?
Non, mais de toute façon, je pense que c'est impossible de se mettre à la place de ces joueurs-là, parce que là, on parle de Karim Benzema, mais si on dévie un peu sur Cristiano Ronaldo, Ronaldo, c'est 100 fois peut-être la fortune de Karim Benzema. Et il a quand même été en Arabie Saoudite.
Oui, mais c'est aussi 100 fois l'ego de Benzema, certainement.
Ouais.
Mais après, pour son ego, tu pourrais considérer que aller en Arabie Saoudite, c'est pas bien.
Voilà.
Tu vois,
que rester au Real. Donc, c'est-à-dire
l'argent a une telle puissance que moi, je peux pas me permettre de juger des mecs qui refusent ou acceptent ce type d'offre. Je te dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord.
Je m'interroge sur leur logiciel, leur procédé intellectuel. Je pense que comment ils réagissent.
Mais là où tu t'es trompé tout à l'heure quand tu as dit, c'est que tu as dit, moi, j'accepterais. Donc, en fait, ils sont juste comme nous. Ils sont juste comme nous à une autre échelle. Mais s'ils peuvent accepter.
Non, parce que moi, j'ai pas 80 millions d'euros sur mon livret A.
Toi, on te proposerait pas.
Il y a un plafond,
c'est plafonné, c'est 48 000 euros de plafond.
Ouais, mais toi, Nico, on te proposerait pas 400 millions. Bah, on te proposerait 400 fois plus que ce que tu gagnes maintenant.
Et je sais pas si j'accepte.
Mais si, tu l'accepterais.
Je ne sais pas.
Et regarde, il a refusé France Culture.
Ouais. Voilà. Et Inter. Et Info.
Juste Info.
Beaucoup plus d'argent.
Il y a The Athletic qui sort l'info juste à l'instant. Il a pris sa décision. Benzema, il va la donner dans pas longtemps. Donc là, pour lui, c'est
décidé. Ah, c'est une info, on sait toujours pas.
Non, mais moi, je trouve qu'il y a une info dans l'info, c'est que s'il restait, il l'aurait dit. C'est quand même bizarre que le mec dit.
Et ça, on le sait, RMC, ça fait plusieurs semaines qu'il hésite alors qu'il a le contrat sur la table au Real Madrid.
Et il y a un autre truc important, c'est qu'il reste un match de championnat pour le Real Madrid. Il faudrait mieux, peut-être, si tu pars, l'annoncer avant pour dire au revoir.
Pour dire au revoir. J'accueille Hicham au 32-16, supporter de Real. Salut Hicham.
Salut Hicham.
Salut Hicham.
Un petit problème. Bonsoir Hicham, j'aurais dit bonsoir.
Bonsoir, vous m'entendez bien?
Oui, bien sûr. T'accueillir dans Génération After avec Kevin, Jonathan et Sofiane. Alors toi, t'es supporter de Real, donc déjà le cœur qui parle. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit quand il apprend que Benzema n'est pas insensible, loin de là, à l'intérêt saoudien?
Alors, ça pique un peu. Pour moi, il y a trois choses qu'il faut prendre en considération. C'est le projet sportif au Real ou en Arabie Saoudite. C'est la situation économique, vous en avez parlé, et c'est la situation familiale. Je pense, à son âge, à 36 ans, je pense que Karim Benzema, il se pose aussi des questions concernant sa famille. Concernant le sportif, je pense que Karim, il doit juste se poser la question de savoir, est-ce que je suis capable, physiquement, je parle, parce que mentalement, je pense qu'il l'a déjà prouvé, d'accueillir un mec comme Harry Kane, comme a priori, c'est lui qui tient la corde actuellement, est-ce que je suis capable d'accepter cette concurrence-là? Donc, est-ce que physiquement, je suis capable d'accepter cette concurrence et d'être au top? Deuxième chose, c'est le salaire, vous en avez parlé. Vous avez parlé de politique, j'entendais là tout ce que vous étiez en train de dire. Est-ce que tu es prêt, je crois que c'est Kevin Diaz qui a posé la question, est-ce que tu es prêt à représenter, en gros, Mohamed Ben Salman, qui a fait des choses atroces à un journaliste en Turquie? Ça n'empêche pas, je suis désolé, mais je vais faire un parallèle politique. Ça n'empêche pas Emmanuel Macron de dealer avec lui. Ça n'empêche pas Sarkozy de faire des voyages politiques et économiques. Ça n'empêche pas toute la délégation d'Hollande. Ils sont partis à 10 ministres pour signer des contrats. Ça n'a empêché.
On s'essuie pas les fesses avec du papier sale.
Non, mais au-delà de ça, c'est pas ça que je suis en train de te dire.
Non, mais t'excuses, ça n'excuse pas.
Ça n'excuse pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que on met tout sur le dos de Karim Benzema. Les gars, c'est pas lui qui a dit « je veux 400 millions ». Ils ont dit « hey, on te propose tant ». Maintenant, il y a une situation aussi. Le mec, il a en 18 mois, il a la situation sportive. Je vais laisser la politique de côté parce que ça ne m'intéresse pas. Mais sportivement, en 18 mois avec le Real Madrid, il a gagné tous les trophées possibles. Et son histoire de 13 ans avec le Real, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, en 13 ans avec le Real, il a tout gagné. Tout ce qu'il voulait gagner, il l'a gagné. Maintenant, le mec, il se dit, j'ai 36 ans, il y a deux options. Soit je rempile un an et il y a un risque que j'écorche la statue que je suis devenu au Real Madrid en faisant des moins bonnes performances parce que physiquement, ça va pas mieux et que physiquement, ça va aller de mal en pis.
Je suis d'accord avec toi.
Il dit, à 36 ans, hey, les gars, moi, j'ai tout donné et je vais peut-être pas accepter... parce que, pareil, les journalistes, les supporters, on est ingrats. On vit dans l'instant présent. On se souvient pas. Cristiano, il en a pris plein la tête quand il était mauvais avec le Portugal, quand il était mauvais avec. On se souvient jamais de ce qu'ils ont fait avant. Messi, pareil. Le PSG, on l'a fusillé médiatiquement parlant. Je parle. Après, ce qu'il fait sur le terrain, c'est autre chose. Et donc, du coup, peut-être qu'il se dit, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Vas-y, je m'en vais. Et peut-être, il y a une dernière chose. Et après, je termine sur ça. La situation familiale. Vous n'êtes pas censé savoir que Karim Benzema affiche haut et fort sur ses réseaux sociaux qu'il est croyant, qu'il est musulman. Ça reste une terre sainte, l'Arabie Saoudite. Il se dit peut-être que pour l'éducation de mes enfants, 2 ans en Arabie Saoudite, ça peut être un bien. Je ne sais pas, c'est une autre considération. En fait, dans ce dossier-là, il y a plusieurs poches. Et dans ces poches-là, on ne peut pas se mettre à sa place. Oui, c'est indécent d'accepter une telle offre parce qu'il est déjà multimillionnaire. Hey, les gars, ils n'ont pas le même train de vie que nous. Il prend son jet privé 600 fois dans l'année. Son jet privé, ça lui coûte pas 2000 euros.
Faudrait qu'il dose un tout petit peu quand même, au moins pour nous, les enfants, par rapport à la planète, pour les enfants du coup.
Les restos que Karim Benzema fait, c'est pas des restos à 35 euros le menu. C'est tout ça qu'il faut voir.
Oui, mais attends, on va pas non plus.
Attends, des fois, tu
justifier.
Je connais des bons restaurants
à 35 ans, je te le dis.
Il faut qu'il maintienne son dans des restaurants étoilés. Non, pour moi, c'est certain.
Non, mais oui.
Je comprends ce que tu dis, Cham. La fin de l'argument est un peu moins recevable pour moi. Vas-y.
Je suis d'accord avec 80% de ce qu'a dit Cham, notamment sur le début. Après, moi, sur Benzema, il y a un truc entre les deux, une solution entre les deux qui pourrait convenir au Real Madrid et à Benzema. S'il dit avec le Real Madrid et s'il s'entend pour dire avec le Real Madrid et l'Arabie Saoudite, parce que ça va, je sais pas si on va avoir le temps d'en parler, mais ça va mettre le Real Madrid, s'il part, dans une situation très complexe dans la gestion du mercato d'été. Et quand je dis mercato d'été, c'est celui-là et celui de l'année prochaine. Suivez mon œil, je parle de Mbappé potentiellement l'année prochaine. Donc comment tu vas gérer tout ça? Mais s'il s'entend avec le Real et l'Arabie Saoudite, il dit je reste encore un an au Real Madrid et je rejoins l'Arabie Saoudite dans les mêmes conditions financières dans un an, je pense que ça peut convenir à tout le monde. Et peut-être que Benzema, d'ailleurs, dans cette idée de respect qu'il a déjà prouvé à maintes reprises par rapport au Real Madrid, mais peut-être qu'il pourrait avoir une sortie encore meilleure et puis arranger tout le monde.
Harry Kane cet été, c'est largement faisable,
ça me paraît très compliqué de voir une cohabitation entre Harry Kane et Benzema,
justement,
même pour
ça.
Un an.
Oui, c'est pour ça que je te dis que si Benzema part, il y a le successeur qui est annoncé.
Harry Kane ne jouera pas la Coupe d'Europe la saison prochaine.
Harry Kane, ça bloquerait pour moi à terme l'arrivée de Kylian Mbappé. J'ai du mal à voir Mbappé et Kane dans la même équipe en 2024.
Bah si, ça dépend.
Ah si, c'est complémentaire
moi,
même.
C'est pas du tout le même poste. Harry Kane a pu jouer avec Oudmundsson qui est un attaquant en gauche.
Vinicius, c'est à gauche. Depuis... Fait quoi,
Vinicius, ah, ben Benzema, Mbappé ira à droite.
De toute façon,
Kane, c'est 80 millions, juste
d'accord,
comme ça.
Mais l'équation,
un an de contrat, lui, reste.
Non, mais l'équation Harry Kane, pour moi, elle n'est pas avec Kylian Mbappé. La seule équation Kylian Mbappé au Real, c'est Vinicius. Est-ce que tu veux que Vinicius reste à tête de gondole en partant du côté gauche ou est-ce que tu recrutes Kylian Mbappé? Et dans ce cas-là, tu sais que Vinicius, il faudra peut-être qu'il déménage de l'autre côté. Mais concernant Karim Benzema, moi je pense que sportivement, c'est le bon moment. C'est le bon moment parce que
un peu
à l'image de ce qu'avait fait Zidane, c'est-à-dire de partir à ton prime,
d'accord,
à ton apogée, en tout cas un prime qui est très long pour Karim Benzema.
Je sais pas pourquoi il faut partir à son apogée, c'est encore un concept que je ne comprends pas.
Mais en fait, c'est pas la question,
c'est pas grave, on a envie de le voir nous encore en Ligue des Champions.
Tu sais, c'est
fou qu'il parte en état moins bien. Non, c'est comme si Messi plante 3 buts en Ligue des Champions.
T'as bien aimé son état physique cette saison? Moi à de nombreuses reprises, j'ai mal pour lui. Le mec continuait sur les terrains alors qu'il était blessé constamment. Là, il a encore fini un dernier match, il s'est fait écraser le pied, il a fini je sais pas dans quel état, on a vu son pied d'ailleurs pas de
attention
pied.
Il a moins joué avant la Coupe du Monde parce qu'il a décidé aussi
enfin il était quand même sur et s'il commence la Coupe du Monde dans cet état physique, c'est pas pour faire plaisir à sa gestion par rapport à Real Madrid.
Moi je l'ai trouvé apogée, ça veut juste dire partir sur une belle saison,
ça je suis d'accord,
ça veut dire que tu pars sur une belle saison, tu pars encore une fois en ayant été décisif et surtout tu pars parce que tu as une opportunité exceptionnelle.
Je suis toujours circonspect par le fait de voir que quand par exemple Samuel Samuel Eto'o avait signé à Landy Makhachkala.
Ça avait dérangé personne,
il y avait eu beaucoup d'émoi, notamment sur le respect des droits de l'homme au Daghestan, etc. Et que là, maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Donc voilà, c'est cool.
C'est pour être génial. On a un message de Direct Studio, Jonathan, qui te répond d'ordre géopolitique. Le Mexique, c'est aussi le pays des cartels où des corps sont découpés.
Oui, mais est-ce que c'est de la politique gouvernementale?
En tout cas, elle est corrompue. Enfin,
elle est corrompue, d'accord. Mais est-ce que c'est le gouvernement qui est derrière les cartels? C'est une question qui est bien plus vaste et plus compliquée.
Mais Jonathan, c'est trop.
Comme la question saoudienne, certainement aussi.
C'est trop compliqué.
Si Benzema redonne tout son argent au Yémen, c'est bien.
Non, mais j'entends tout ce que dit Jonathan McCarthy. J'ai l'impression que c'est comme Stéphane Guy dans l'After qui nous parle tout le temps du Qatar, des droits de l'homme et tout ça. Mais les mecs, revenez à ce qu'on est en fait. On est des supporters de foot, on parle de foot.
Ah, bah,
et
c'est
en
bien.
Fait, on veut relier quand ça nous arrange. C'est quand ça nous arrange.
Mais la vie n'est pas manichéenne.
Jonathan, je te vise pas toi personnellement.
Non, je sais, Hicham.
En général, dans les médias français, on aime bien tout mélanger. Les sphères publiques, les sphères religieuses, les sphères politiques. À un moment
parce
donné,
que, parce
est...
que le non, foot englobe non, tout, Hicham.
Oui, il englobe tout, mais nous, bon. On est des supporters de foot. On parle de Karim Benzema et nous. Et, on,
parce que toi, tu penses terrain, ballon et.
Non, mais tu peux pas.
Hicham, merci Kevin, c'est terminé. Bonne soirée à toi, Hicham. Merci d'être venu dans Génération
là-dessus. On peut pas dire ou entendre ce que dit Hicham quand il dit. Nous, on parle ballon, mais ces pays-là, quand ils investissent dans le foot, ce n'est pas que pour le ballon.
C'est du sport washing.
On est obligé de parler d'autre chose que de ballon.
Évidemment. Voilà, pause. On arrête là sur le sujet Benzema pour vous dire qu'il y a du basket également ce soir, un match de demi-finale du championnat de France entre Boulogne-Levallois et l'ASVEL. Arnaud Valadon, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. C'est Wembanyama qui remplit encore Bercy, près de 15 000 personnes attendues parce qu'il y a des problèmes d'organisation. Tout le monde n'est pas encore rentré et beaucoup de spectateurs sont encore sur le parvis de Bercy. C'est le match 2. Boulogne-Levallois a pris le premier match contre l'ASVEL du président Tony Parker. C'est au meilleur des 5 manches et pour l'instant, pas de panier inscrit après 2 minutes de jouer ici entre Boulogne-Levallois et l'ASVEL.
Allez, pause, on va dans un instant. Vas-y.
On se moque de qui? Boulogne-Levallois maintenant? C'est fusionné? Parce que j'ai fait Boulogne-Levallois en transport en commun, j'ai mis une heure. Je veux te dire qu'il y a une couille là.
Tu sais que le basket français, c'est souvent un club, 3 communes.
Hein, ouais.
Parfois.
Bah, une heure
on est hier Toulon, bref. Ouais. Reste avec nous, la suite des générations. After, dans un instant, Kevin veut parler du TPC sur RMC. A tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Jonathan McCarthy et Sofiane Zoui. Alors évidemment, le débat Benzema a enflammé le Direct Studio.
Ah bon?
Bien sûr, on en reparlera. On attend à tout moment l'information qui peut tomber très vite d'ailleurs sur la décision.
Quelle est la tendance sur les. Sur les réseaux.
Non, mais j'ai pas le temps parce que on a pris beaucoup de temps pour en parler. C'est assez partagé quand même.
Oui.
C'est assez partagé.
Ah, quand même.
Beaucoup ont aimé mon avis démagogique.
Ah, également. Très bien.
Naïf même.
Très bien. Il est dans l'air du temps. Ça me laisse encore un peu d'espoir.
Mais je suis de naïf et démago, mais en tout cas, je le pensais sincèrement, les gars. Le tennis rapidement. Anthony Reich, où en est-on? Gasquet, Rinderknecht.
Cette fin de match est folle puisque Arthur Rinderknecht menait 5 jeux à 0. Il a été bousculé, poussé dans le jeu décisif du 4e set. Et Richard Gasquet qui a une réaction d'orgueil incroyable. Et là, attention, parce que là, il y a une marque qui est en train d'être confirmée. C'est bon, ça y est, c'est fait. Sur ce coup droit gagnant d'Arthur Rinderknecht, il s'impose au bout du suspense en 4 manches sur un jeu décisif assez brûlant face à Richard Gasquet. Il verra le deuxième tour, Arthur Rinderknecht. Et à noter que sur le cours central, Gaël Monfils vient de débuter son tournoi face à Sébastien Baez. Un jeu à 0 pour l'argent.
Merci à toi.
Quoi ?
Tu vas y aller, Roland. On va te voir des photos de toi avec des petites lunettes.
Moi, si j'y vais, je paye. Et comme il y a trop de demandes, j'ai pas eu de place.
Voilà. Ah ouais.
Toulouse va donc perdre 4 joueurs en fin de saison, au moins. Départ acté pour Branko Vandenboomen jusqu'en 2027 à l'Ajax.
Ça t'a fait plaisir, ça.
Bert de Jägerö, Maxime Dupé et Spierings, son prénom?
Stein.
Tous en fin de contrat. Daniel dans l'After hier disait que c'était la limite de la politique de la data, propre notamment au Toulouse Football Club. J'ai pas trop compris pourquoi. En tout cas, tu n'es pas d'accord également avec cette position, Kevin. Avis tranché, Kevin Diaz.
Il faut quand même rendre à César les travaux le gros travail qui a été mis en place.
Vous ne connaissez pas, celui-ci fait mal quand même.
C'est fou.
Ça va,
c'est l'hésitation.
On en fait tous.
Non, il se corrige après. Il se corrige à la fin.
Comme souvent. En tout cas, j'ai vu que Sofiane, ça l'avait bien fait rire.
Je la connaissais pas.
Mais oui, mais pas là, mal.
Ça a été.
C'est une des plus belles, je pense.
Il s'est exclaffé.
Je suis désolé.
Exactement.
esclaffé.
T'aimes bien le vocabulaire un peu soutenu.
J'aime bien que tu te rattrapes après ce jingle notamment.
Allez, esclaffons-nous.
Kevin, Toulouse alors. Pourquoi tu valides ?
Bah écoute, moi je valide parce que lorsque j'ai vu tout à l'heure, je discutais avec Najib, notre producteur, et surtout sur le cas, je vais prendre l'exemple du cas Branko van den Bomen. Lorsque j'ai vu que notre ami Branko retournait dans son club formateur par la grande porte, en signant donc un contrat de 4 ans avec l'Ajax Amsterdam, qui est un club en plus en pleine reconstruction, qui a un nouveau manager général, qui vient de se séparer de son CEO en la personne de Van der Sar notamment, j'étais vraiment content pour lui. C'est un joueur qui a débuté avec l'équipe réserve de l'Ajax et puis ensuite qui a un peu vivoté dans cette deuxième division, qui, on l'a vu quand même, a pas mal de talent, mais il a ensuite été recruté donc par Toulouse grâce aux data, grâce à sa qualité notamment de passe et sur coup de pied arrêté. Aujourd'hui, il permet en plus, donc c'est vraiment win-win situation, comme tu aimes les anglicistes, parce que c'est gagnant-gagnant. Il permet à Toulouse de revenir en Ligue 2, il permet à Toulouse, avec ses coéquipiers bien sûr, de gagner une Coupe de France, et derrière, certes, il part libre, mais peu importe. Le TFC est gagnant, ils ont remonté en Ligue 1, ils ont eu un joueur qui était quand même très abordable financièrement, et en plus, ils permettent à ce joueur de revenir dans un grand club, dans le plus grand club néerlandais, son club formateur. Je le voyais tout sourire avec toute sa famille. C'est son rêve qui devient réalité grâce au TFC, grâce à la data. Donc au final, à partir du moment où tu peux proposer un projet en tant que Toulouse Football Club, en mode Van den Bomen, mais Stijn Spierings est sur les tablettes du PSV Eindhoven, je pense que De Jager aura également un très bon club, eh bien tu peux faire la différence lorsque tu vas tenter de recruter ces joueurs. On a aussi ce fameux joueur qu'ils ont convaincu, que eux ils pensaient qu'il avait le niveau pour jouer à Toulouse, que ce soit pour jouer au tableau en Ligue 2, voire en Ligue 1. Et donc aujourd'hui, cette politique de la data, certes, elle a fait en sorte que certains joueurs doivent partir libres, mais elle a quand même permis au club et aux joueurs de progresser de façon très intéressante, et ça, je pense, permettra de convaincre les futurs joueurs que tu veux recruter, que ces exemples, ils sont parlants pour tout le monde, ils sont parlants pour les supporters, parce que j'entends certains qui disent, ah oui, mais ces joueurs, ils ont pas vraiment fait partie de l'histoire. Mais comment ça? Tu vas me dire que dans 20 ans, on se rappellera pas de Branko van den Bomen?
Qui dit ça?
Non, c'est ce que disait hier, par exemple, dans l'after. Moi, je trouve que ces joueurs, même si certes, ils ne sont pas restés 10 ans, ils sont restés que quelques saisons, mais ils font partie aujourd'hui de l'histoire du club. C'est des joueurs qui ont tout donné pour ce club, et le club leur a bien rendu, peut-être pas forcément en salaire, eux, ils ne l'ont pas forcément rendu en transfert, mais c'est deux belles histoires. Et je finirai par dire que, en plus, à partir du moment où tu recrutes ce genre de joueurs qui ont après, bien sûr, l'intelligence de ne pas forcément prolonger, puisqu'ils se disent, non, moi, je vais être bon, je vais surtout parier que je vais pouvoir cacher sur une prime à la signature, sur un nouveau contrat, peut-être ailleurs, mais du moment où le monde est heureux,
c'est
ça
pas. C'est pas le cas de tous les joueurs qui ont prolongé, parce que. Qui n'ont pas prolongé, pardon. Je pense qu'il y en a pas dans le lot que tu as cité qui auraient été favorables à une prolongation de contrat. Là où ça bloquait un petit peu, c'était surtout sur les durées de contrat. Eux, ils voulaient un an, enfin il voulait 2 ans, et puis le club proposait seulement 1 an. Moi je suis pas forcément, je suis en partie d'accord avec toi, Kevin, mais pas totalement, parce que je suis d'accord avec toi que ça leur a permis de monter, donc c'est positif, et que le projet data, avant d'être un projet data, faut mettre en avant un truc, club, c'est un projet travail, et ça juste parce qu'on résume ça à la data, etc. Mais la data, c'est du boulot, il y a beaucoup de clubs qui devraient s'en inspirer juste sur la valeur travail, donc c'est positif. Après, là où je suis pas d'accord avec toi, Kevin, c'est que pour moi, quoi qu'il arrive, quand tu perds quand un joueur part libre, c'est un échec pour moi, financier.
Ce que tu dis, ça n'a aucun sens.
Laisse-moi finir. Sur la montée, éventuellement, là, parce qu'on est dans une situation où ils sont montés, donc c'est positif, on est d'accord. Mais sur les prochaines saisons, il faudra forcément que tu aies des reventes, parce que c'est un club, c'est le 17e budget de Ligue 1. Si tu penses vraiment que tu vas t'en sortir simplement en laissant libre tes joueurs et puis en trouvant des bons coups avec ton système de data, moi je dis, il faut faire très attention à un truc. C'est qu'aujourd'hui, ça marche, mais il y a eu des échecs quand même bien évidemment. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'attention à ne pas trop faire confiance à ce système-là, dans le sens où tu te dis, ah nous on en a rien à faire, parce que les joueurs, c'est pas grave s'ils partent libres, on a déjà préparé la suite. Mais il faut que t'aies quand même un parachute financier avec ces joueurs-là. C'est-à-dire que au moins tu as les a valorisés, ils t'ont permis de monter, de gagner une Coupe de France qui est extraordinaire. Le projet, il est gagnant, il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour te pérenniser, malheureusement, mais il faut de la revente, surtout dans des clubs comme ça. Tu peux pas me dire, Kevin, juste pour finir, ils sont partis libres, c'est pas grave.
Pour revendre, il fallait prolonger. D'accord.
Exactement.
Pour revendre, il fallait
prolonger. Ou alors revendre un an avant.
Non, non, mais attends. Voilà. Est-ce que tu vas je te pose une question, ouais. Il va falloir que tu répondes.
Ouais, bah, je suis là pour ça. Je suis payé pour ça.
Est-ce que tu vas prolonger un joueur en lui donnant un salaire qu'il ne mérite pas juste pour pouvoir espérer le revendre?
Bah écoute, si t'as des détails par rapport
non,
à cette question-là,
pas,
non mais si t'as des détails par rapport à cette question-là, donne-les-moi. Bah, parce que je suis pas sûr.
Bah, je vais te donner un exemple. Ouais. Je vais te donner un exemple. Est-ce que tu penses que Stijn Spierings mérite un des plus gros salaires de Ligue 1, par exemple, de Toulouse, par exemple,
de son club?
De son club.
Pourquoi pas? Si tu considères qu'il y a beaucoup de clubs qui sont dessus et qui.
Mais non, mais
ça dépend.
Mais c'est là où tu te trompes.
Mais alors dans ce cas-là, tu le vends un peu.
Mais non, c'est là où tu te trompes. Stijn Spierings ou Branko van den Bommel, ils vont signer peut-être. Enfin, un a signé à l'Ajax et l'autre va peut-être être signé au PSV Eindhoven. Ouais. Le PSV Eindhoven, jamais de la vie, tu entends, jamais de la vie, ils ne l'achètent. Jamais, en fait. Jamais ils ne mettront un euro sur Stijn Spierings. Par contre,
mais c'est le pas prendre le problème libre. De Toulouse, on a rien à faire.
Je te parle d'un profil de club. Mais c'est pareil. Stijn Spierings, il va pas signer en première ligue dans un top club. Il va signer dans un club qui joue peut-être l'Europa League, un bon club suisse, un bon club hollandais, un bon club belge.
C'est pas le sujet.
Aujourd'hui. Mais si, c'est exactement ça le sujet. C'est-à-dire de quel joueur tu es calibré quand tu recrutes un joueur de Ligue 2. À l'étranger, par exemple, comme c'est souvent le profil. Là, ils sont sur, on entend, des deux Espagnols, peut-être au Portugal. C'est des joueurs que tu recrutes parce que tu as les moyens de les
mais
attirer.
C'est pas le sujet.
Allez,
c'est pas le sujet dans le sens où je suis d'accord avec ton avis. Le fait que Van den Boomen signe à l'Ajax, ça veut dire, ça valide le projet du TFC en termes d'être capable de cibler, de repérer des joueurs, de les valoriser. Et la preuve, ils atterrissent dans des autres clubs. J'ajoute une chose, c'est même un plus pour l'attractivité du TFC qui vont approcher certains joueurs. Alors, regardez, Van den Boomen, on l'a pris là et maintenant il termine à l'Ajax dans le club de CRM.
Ce que disait Kevin aussi,
mais t'es quand même obligé. Là, j'ai l'impression de faire la synthèse d'être François Bérou, mais t'es quand même obligé. Si tu veux que ton projet soit viable, de faire des petites plus-values à droite à gauche pour que le projet puisse monter en gamme. Après, ça dépend quel projet de Redbird. Terminé. Est-ce que le projet de Redbird, c'est de rester un club qui joue entre la 10e et la 13e place de Ligue 1, et ça, dans ce cas-là, effectivement, tu peux continuer sur ce rythme-là, ou est-ce que le projet, c'est de monter en gamme, et dans ce cas-là, va falloir faire un petit peu des plus-values.
Je rappelle également que
une question de gestion de contrat, ça n'a rien à voir avec la data. C'est là où j'ai pas compris l'avis de Daniel.
Pour l'instant, l'avenir de Toulouse en Ligue Europa n'est pas officiellement assuré. Je rappelle que c'est le règlement 5 de l'UEFA qui stipule que deux équipes d'un même propriétaire ne peuvent pas jouer une Coupe d'Europe lors d'une même saison. C'est le cas avec le Milan, propriété de Redbird Capital Partners et du TFC. Écoutez, Toulousain, on peut vous dire qu'on est serein, qu'on a envoyé tous les documents à l'UEFA, à la Fédération française également.
Ils jouent pas la même coupe, mais
Infantino a dit qu'ils allaient trouver une solution. Il y a une volonté des institutions.
C'est Ferenc qui a dit.
Et pour finir, et on en reparlera peut-être une autre fois, mais il y a un truc à faire très attention quand tu es dans la gestion d'un club, c'est de ne pas prolonger un joueur juste pour espérer de le vendre. Si tu le prolonges, c'est parce que tu penses
vraiment
qu'il va faire partie de ton projet.
Ça dépend de la durée du contrat, Kev.
Dans un instant, notre invité Brendan Chardonnay sera avec nous, capitaine du Stade Brestois. D'abord le basket, rapidement Arnaud Valadon. Demi-finale, match 2 entre Boulogne-Levallois et l'ASVEL.
Les 30 dernières secondes de ce premier quart-temps et l'ASVEL est dépassé. Déjà un écart en faveur de Wembanyama, les Mets. 21-12, Wemby qui nous a gratifié de deux dunks qui ont fait lever Bercy et ses 15 000 spectateurs.
À tout à l'heure Arnaud, pause et on vient dans un instant avec notre invité dans Génération After sur RMC. À tout de suite.
RMC 20h-22h Génération After.
Nicolas Jamain
avec Stéphane Zouaoui, avec Jonathan Macardy et Kevin Diaz. Merci d'écouter Génération After et j'accueille tout de suite notre invité, capitaine du Stade Brestois, défenseur central, ami d'RMC, on peut le dire comme ça. Brendan Chardonnay est avec nous. Salut Brendan.
Salut tout le monde.
Salut, très heureux de t'accueillir. Merci d'avoir préféré pour une fois au Super Moscato Show Génération After. On est très heureux d'avoir tes faveurs, cher Brendan. D'ailleurs,
Il faut donner à tout le monde. Il faut donner à tout le monde.
Voilà, t'es généreux, ça, comme mec, toi.
Un mec généreux. T'as conscience quand même de ce que tu dois au Moscato Show, pas Brendan?
Oui, et Eric Dimeco me le dit souvent que je lui dois une carrière. Je lui dois une carrière avec toute la pub que me fait RMC, mais c'est sympa. Hein.
Bon, on va faire la pub du joueur et ton club également maintenant avec toi. Encore un maintien en Ligue 1, Brendan. Cinquième saison à venir d'affilée pour le Stade Brestois. T'as le sentiment que c'est toujours un exploit quand vous vous maintenez en Ligue 1?
Alors un exploit peut-être pas, mais c'est il faut jamais banaliser un maintien quand on est Brest. On sait que l'objectif en début de saison, forcément, c'est le maintien. Après, on l'a vu l'année dernière, où on s'était maintenu un peu plus facilement. Donc là, à partir de ce moment-là, on peut se projeter. Mais tant que le maintien n'est pas acquis à Brest, voilà, il faut parler de maintien. Et c'est vrai que ça va être la cinquième année d'affilée. Je crois que c'est plus arrivé depuis 1980 au club. Donc c'est quand même quelque chose de fort. Hein.
Et battre Marseille au Vélodrome, est-ce que c'est encore un exploit?
Allez.
Allez, je peux pas. Un exploit, je sais pas, parce qu'on est, des joueurs de foot comme eux aussi.
Non, mais je connais ton secret, Brendan. Je connais ton secret quand tu viens au Vélodrome, c'est que ton agent, il doit te monter le bourrichon, et t'arrives à chaque fois et t'es déter, parce que son agent, vous savez qui c'est son agent?
Je peux le dire.
C'est Pierre Ducrot. C'est toujours Pierre, ton agent.
Eh oui.
Ah là, donc je pense que Pierre, il te fait un travail mental. Sur les 15 jours d'avant, il te fait un travail mental. Tout le monde connaît la photo de Pierre qui fait le tête contre tête contre Avanelli. Donc voilà, c'est moi, franchement, pour Brendan, je te le dis, tu m'emmerdes quand tu viens au Vélodrome. Faut que t'arrêtes, quoi.
Je sais, et j'aime ça.
Il aime emmerder Jonathan. Magnifique. Bon, Eric Roy est arrivé le 3 janvier, Brendan. Nous ici, on n'était pas convaincus, effectivement, quand il est arrivé à Brest, après des années sans entraîner une équipe de Ligue 1. Quand il arrive, vous êtes 17e et relégable. Vous êtes aujourd'hui 14e grâce à un bilan de 31 points en 20 matchs. 10e meilleur bilan de l'année civile en 2023.
C'est pas mal du tout.
Une défaite sur les 10 derniers matchs.
Qu'est-ce qu'il a apporté concrètement, Eric Roy? Parce que je te le dis, nous, on était un peu sceptiques. Hein.
Oui. Alors, je sais qu'il y a eu pas mal de critiques et beaucoup de gens sceptiques. Après, c'est normal. C'est normal parce que ça faisait une dizaine d'années qu'il avait plus coaché. Maintenant, il a apporté toute son expérience, toute sa sérénité. C'est quelqu'un de calme et qui aime parler, qui aime discuter. Et puis surtout aussi, je pense qu'il faut le souligner, c'est que nous, les joueurs, on s'est mis réellement à notre niveau. On n'était pas à notre niveau durant les 6 premiers mois. Et on a vu que quand tout le monde tourne à plein régime, on a des bons joueurs et on devient une belle équipe.
Sofiane.
Salut Brendan. Bon, je sais que parler des choses positives, c'est très bien, mais ce qui est le plus intéressant, c'est quand même les choses négatives et ce début de saison. moi, j'aimerais savoir comment tu t'es relevé et le groupe avec toi de cette défaite qui était lunaire face à Montpellier, le 7-0 très vite dans la saison. T'es sur le terrain, t'es capitaine. Évidemment, je dis pas du tout que c'est de ta faute, hein. Mais t'es important dans cette équipe. Mais comment vous êtes relevé de cette défaite terrible du début de saison?
Oui, ça a été compliqué. Alors ce match-là a fait mal aux têtes, bien sûr, mais c'est surtout l'enchaînement de matchs ensuite aussi. On joue le mercredi après contre Rennes, on perd 3-1 parce qu'on prend deux buts à la 88e et à la 90e. On reçoit Strasbourg derrière. On est à 11 contre 10 et on arrive à faire que match nul, et on doit même perdre le match si Bizot ne fait pas un arrêt exceptionnel à la fin. Donc c'est surtout l'enchaînement de matchs là qui a été très compliqué.
Benoît Chardonnay est avec nous dans l'after, capitaine du Stade Brestois. Kevin,
il y a d'autres équipes avant nous qui ont pris
Vas-y Brendan.
Oui,
ça a coupé un petit peu. Vas-y,
ça a coupé. Bon, j'y vais sinon.
Vas-y, Kevin.
Moi, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous donner, un truc tactique qu'a changé le coach Eric Roy depuis qu'il est, à partir du moment où il a pris en charge l'équipe.
On l'a perdu.
Ah, on va faire une pause.
Un truc tactique. Je pense.
Vas-y, Brendan, ouais. On te laisse la parole maintenant.
Ah bah il est pas.
Oui, un truc tactique, je pense que le positionnement de Jérémy Le Doiron sur le côté gauche de l'attaque, mais qui rentre beaucoup dans l'axe, et ça fait qu'on joue presque à deux attaquants au final avec Steve Mounier et Jérémy. Donc ça a apporté beaucoup de monde dans la surface, beaucoup de taille, et on voit que les deux ont mis beaucoup de buts en cette deuxième partie de saison.
Allez, on va faire une pause, on va essayer d'améliorer la liaison avec Brendan Chardonnay, notre invité dans Génération After, et avec Kevin Diaz, Jonathan Macardy et Sofiane Zouaoui. Le basket, demi-finale, championnat de France, match 2 entre Boulogne-Levallois et l'ASVEL, Arnaud Valadon.
Et du l'ASVEL qui a beaucoup de mal, déjà mené 1-0 dans cette série au meilleur des 5 matchs. Il reste 7 minutes et 28 secondes à jouer dans le deuxième quart-temps. 27-16 pour les Mets, cet avantage donc de 11 points. Wembanyama, 4 points, 2 sur 8. Un petit peu de déchet au tir pour Victor Wembanyama, mais heureusement, les Mets, c'est pas que lui. C'est pour ça qu'ils sont en demi-finale, les hommes de Vincent Collet. Pour l'instant, ils sont bien partis dans ce match 2, 27-16 face à l'ASVEL.
Reste avec nous, Génération After. La suite dans un instant avec notre invité Brendan Chardonnay. Quelques questions encore à lui poser. Et puis, on évoquera également le cas Alexandre Lacazette. Reste avec nous. On revient dans quelques secondes. Merci d'écouter RMC.
T'as une ouverture en profondeur d'Awar, et puis Dubois n'y va pas, Depay n'y va pas, il se regarde les yeux en chien de faïence.
Est-ce que Messi reste? Est-ce que Ney... Enfin bref, c'est un chambarnum qui est énorme.
Enfin, on n'a pas dit Anthony Lopez.
Parce qu'on parle de gardien de but, hein. On parle pas de chauffeur autoroutier.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec évidemment tout le respect et l'admiration qu'on a pour les chauffeurs routiers. Sofiane Zoïd,
la majorité
avec
de Winamax, quand même, Sofiane.
FC. Surtout qu'ils sont très costauds.
On t'a connu plus à droite, mon cher Sofiane. Ah ouais. Jonathan McCardy est là également, Kevin Diaz aussi, notre invité.
Pas sur un terrain, quand même.
Brendan Chardonnay, avant de poser des questions à Brendan encore. Le basket, le direct, Boulogne-Levallois, Lyon-Villeurbanne, Arnaud Valadon. Arnaud Valadon, qui a dû aller à la buvette peut-être, on revient dans un instant. Brendan Chardonnay, question Jonathan McCardy.
Bon Brendan, désolé de mettre un peu les pieds dans le plat, mais je sais que t'es un bon client, que t'es intelligent, donc tu vas pouvoir nous faire une réponse là-dessus. C'est que ton entraîneur a défrayé la chronique par rapport à cette journée de lutte contre l'homophobie, avec des propos qui ont été très controversés. Toi en tant que capitaine du stade brestois, qu'est-ce que t'en as pensé?
Je les ai vus, les déclarations. Je les ai vus, les déclarations. Après, je pense que ça a été plus mal interprété que des propos déplacés, en fait. Je vois où ils voulaient en venir, mais c'est vrai qu'en fait, c'est des sujets tellement, tellement sensibles, tellement, tellement tabous, pratiquement, que c'est compliqué toujours de donner un avis sur des sujets de haute importance comme ça. On l'a vu durant toute la semaine qui a succédé cette journée contre l'homophobie. Voilà, ça a été je pense pour le foot une très mauvaise image.
Et toi, en tant que capitaine, par rapport au discours que tu peux avoir dans le vestiaire, etc., ça serait comment ta manière de réagir si tu avais des coéquipiers qui refusaient de porter ce maillot?
C'est
bah, je sais que t'es un bon client, ouais, donc c'est pour ça que je te pose ces questions.
Tu l'as bien dit que tu vas me mettre dans l'embarras. Oui, c'est des sujets sensibles, mais il faut ne pas aller à contre-courant de ça. L'homophobie est un délit, c'est pas un choix, c'est un délit, donc. Donc voilà, maintenant expliquer bien aux personnes qui veulent pas porter ce maillot que voilà, si peut-être qu'ils devraient avoir aussi cette démarche là des gens, des instances, voilà, de venir expliquer dans le vestiaire pourquoi on fait cette journée contre l'homophobie, parce que c'est vrai que là on nous met juste que bah voilà, on met le maillot ce week-end, mais il y a aucune démarche, il y a aucune personne pour venir expliquer.
C'est vrai, ça.
À tous les joueurs, donc ça pourrait être bien que du monde vienne dans les vestiaires nous expliquer pourquoi on fait cette journée.
Très bonne réponse de Brendan.
Très bien, Brendan. Merci
d'ailleurs,
beaucoup.
Brendan, bravo. Je vais aussi te demander. Non, je rigole. Je vais rester sur le foot avec le match contre l'OM. Comment t'as vécu, toi, ce match? On sait que, alors, l'OM, moi, je suis plutôt d'avis à dire qu'ils ont fait une excellente saison, mais certains...
C'est Hugo Magnetti qui marque, en plus. C'est pas possible. Marseillais. C'est Magnetti qui marque.
Comment t'as vécu? Il y a eu quand même, hein, dans, pour moi, incontestablement, le plus beau stade de Ligue 1 et surtout le public le plus présent, hein, que ce soit en nombre. Comment t'as vécu ce match au Vélodrome? Est-ce qu'on peut, souvent on parle d'un syndrome Vélodrome pour les Marseillais. Comment tu peux l'expliquer, toi, en tant que visiteur?
Moi, j'ai une petite explication, mais je pense aussi que le Vélodrome galvanise les joueurs adverses.
Ok.
Parce que c'est le super stade, la superbe ambiance, et t'as envie de faire le gros match. T'as envie en tant qu'adversaire, t'as envie de faire le gros match.
Tu valides donc la théorie de Tudor.
C'est possible. Je sais pas s'il a dit ça. J'ai pas eu ses propos. Mais moi, je pense que ça peut être dû à ça. Ça peut être dû à ça que les joueurs adverses ont envie de faire le gros match au Vélodrome.
Sofiane.
Oui, Brendan, j'ai une question à te poser sur un joueur, moi, que je trouve énigmatique, mais dans le bon sens du terme, c'est Franck Honora, parce qu'il a eu un passage difficile à Saint-Etienne. C'était un gros transfert d'ailleurs pour Saint-Etienne à l'époque, mais on a vu que cette saison, dans un rôle de piston, pas de piston, mais en tout cas de mec qui mange la ligne, il est très impressionnant. Il a un gros volume de jeu, une belle qualité de pied aussi. Je trouve que c'est un des joueurs, j'aime pas trop l'idée du sous-cotage, mais on est peut-être un petit peu dans ce cas-là avec lui. Est-ce que tu peux nous parler de lui? Qu'est-ce qu'il vous apporte?
Ouais, c'est un très très bon joueur. C'est un très très bon joueur sur le côté. Il est capable de répéter les efforts. Il va franchement à 100 à l'heure. Je crois que c'est l'un des joueurs qui court le plus rapidement en Ligue 1. Et on voit bien qu'il met beaucoup de galettes, beaucoup de centres. Il sait très bien qu'il y a Steve Mounier et Jérém le doigt rond dans la surface. Donc voilà, il a toutes les qualités, je pense, pour aller plus haut dans les prochaines années, ça c'est sûr.
Tu parles de joueur sous-côté, pour moi le vrai joueur sous-côté à Brest, c'est Aris Belkebla. Je comprends pas sans te faire offense Brendan, mais je comprends pas qu'il soit toujours à Brest, parce que je trouve que ça pourrait être un joueur qui joue dans un club européen.
Ouais, c'est un super joueur. Aris, c'est le marathonien. Voilà, il fait entre 12 et 13 kilomètres par match. Il est jamais fatigué. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant ce qu'il arrive à faire au milieu de terrain, que ce soit dans la récupération et l'utilisation du ballon. C'est un très très bon joueur aussi, forcément.
Brendan Chardonnay est avec nous. Petit quiz habituel, Brendan, très rapide, qu'on pose en général, qu'on propose à nos invités. Quel est le joueur adverse qui t'a posé le plus de problèmes cette saison en Ligue 1?
Qui m'a posé le plus de problèmes Alors, contre qui on n'a pas été bon? Contre qui j'ai pas été bon?
Montpellier.
Il y en a pas mal, mais forcément, on est obligé de dire Mbappé.
Eh oui.
Forcément, on est obligé de dire Mbappé tellement il est fort. Et Openda aussi. Ah. Openda de Lens.
Très mobile, hein.
C'est vraiment un super joueur. Et puis c'est un mine de rien, on dirait pas comme ça, mais c'est un déménageur.
Il aime la bagarre, il aime le pressing. Il aime la misère aussi, non, quand même.
Arrêtez de le couper, les gars, on a invité, faut laisser parler, Brendan.
Wai nous a fait la misère aussi, mais comme je te dis, il y en a pas mal que je pourrais citer.
Brendan, question également sur ton quotidien. Qu'est-ce que tu préfères dans ta vie au quotidien de footballeur professionnel? Quel est le moment que tu préfères?
Écoutez, le Moscato Show.
Le moment que je... Ouais, c'est Moscato à 15h. Non, c'est aller tous les jours à l'entraînement. Et oui. Voilà, c'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir de se lever et de se dire qu'on va jouer au foot avec les copains.
Ça n'a pas de prix
quand on sait que beaucoup de gens galèrent dans leur vie, dans leur métier. C'est pas toujours facile, alors que nous, sincèrement, on a un quotidien de luxe.
Magnifique, merci d'être venu.
On a écouté
tes réponses avec beaucoup d'intérêt, Brendan. Merci à toi. Tu feras un excellent consultant, peut-être entraîneur aussi. Hein. Je sais pas quel est ton objectif après carrière.
Il est encore jeune. Il est encore jeune. Et puis,
il me reste encore quelques années normalement.
Et t'as un bon agent en plus.
Ne change rien.
Et j'ai un bon agent.
Un bon agent, super mec. On l'embrasse, Pierre.
Merci Brendan d'être venu dans Génération After. C'est un plaisir. À très vite sur RMC.
Super, je vous remercie.
Et en Ligue 1. Dans un instant, Lens, à quoi joue Franck Hez? Jean Baumel, notre correspondant à Lens, sera avec nous également dans Génération After avec Kevin Diaz, Jonathan Macardy et Sofiane. Oui, oui, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas avec Jamin. Kevin Diaz, Sofiane Zoé, Domino Max FC, Jonathan Macardy. Merci d'écouter Génération After, merci d'écouter RMC. Il est 21h13 à 22h. Gilbert, Daniel et Flo Gautreau prendront le relais pour l'After jusqu'à minuit. Avant de parler du Racing Club de Lens et de son entraîneur Franck Hez, les directs, le basket surtout, Boulogne-Levallois, Lyon-Villeurbanne, Arnaud Valadon.
2 minutes 20 avant la fin de cette première mi-temps, tu arrives au bon moment puisque Victor Wembanyama, après avoir soufflé 4 minutes, fait son retour sur le parquet. Ça va bien pour son équipe, toujours devant, même si l'ASVEL fait un petit rapport approcher 35-27 pour Boulogne-le-Valois dans ce match 2. Et messieurs de l'after, ça va vous faire plaisir, un défenseur international de l'équipe de France et parmi les invités, les VIP, et surtout ça va te faire plaisir à toi Nicolas Jamin, c'est Jules Koundé qui est là, oui, qui est présent pour voir fan de basket. C'est pas la première fois qu'on le voit à des événements du basket français ou de l'équipe de France.
Aussi, ouais,
grand fan d'NBA absolument, et il est là pour voir évidemment Victor Wembanyama.
Merci Arnaud. Jean Baumel est avec nous également ce soir. Ah, bonsoir Gibo.
Salut Nico, salut Jonathan, Sofiane, salut Kevin.
Bonsoir Gibo qui vient de rencontrer le directeur général du RC Lens. Arnaud Pouille, quel sens du timing Gibo après les récentes déclarations étonnantes de Franck Haise sur son avenir au club alors qu'il jouera la Ligue des Champions la saison prochaine? C'est dimanche soir pendant les trophées NFP, mais aussi après la victoire samedi contre Ajaccio. C'était notamment à ton micro. Écoutons d'abord, pour planter le débat, ce qu'a dit Franck Haise sur son avenir à Lens.
Évidemment garder un groupe de qualité et essayer de le renforcer.
Avec vous seulement ?
Je l'espère.
Bon, voilà, c'était court, hein, mais bref et efficace. Franck Haise qui met un doute sur son avenir à Lens. Ça a surpris beaucoup de monde à Lens, mon cher Gibault.
Oui, c'est vrai que ça a surpris parce que bon, on ne voyait que du positif depuis un petit moment. Donc c'est vrai que ça faisait un peu le petit caillou coincé dans la chaussure. Mais bon, on va écouter dans quelques instants le DG, le directeur général du Racing Club de Lens, Arnaud Pouille. Mais c'est vrai que quelque part. Il dit j'ai envie d'avoir une équipe compétitive l'année prochaine en Ligue des Champions. Alors compétitive, ça veut dire être performant, pas aller si au moins ils passent là. On sait pas quelle poule ou quelle équipe ils vont affronter, mais ne pas être ridicule, voilà, c'est avoir les moyens de faire quelque chose de sympa, ou surtout avoir cette équipe. C'est-à-dire que la chose dont tout le monde rêve, c'est de voir cette même équipe, voilà, avec un ou deux joueurs en moins. On verra qui sont les profils qui pourraient partir en priorité, mais de retrouver cette ossature avec des renforts en Ligue des Champions, parce que cette équipe là elle nous a tous fait entre guillemets rêver. En tout cas on s'est régalé à les regarder, et on a envie de voir ce que ça donnerait en Ligue des Champions. C'est la grande question. Donc lui, je pense qu'il a derrière ces déclats tout simplement l'envie de continuer l'aventure. Alors peut-être pas finir sur le podium la saison prochaine, mais au moins avoir bonne figure en Ligue des Champions et tenir la route en championnat.
Vous me direz dans un instant, Kevin, Jonathan et Sofiane, si vous avez trouvé sa communication pertinente ou maladroite avec vous aussi au 32-16 supporters lensois. D'abord écoutons Arnaud Pouille, donc Gibo, que tu as rencontré tout à l'heure, directeur général.
Il est d'accord avec lui, tout simplement.
Écoutons-le.
Ça pour pas non plus décevoir, je pense, les gens autour de lui, c'est au cas où une sollicitation telle qui partirait. Donc moi je trouve ça hyper honnête de sa part. Il y a des trucs qui sont repris et donc on fait des raccourcis qui peuvent être alarmants, mais quand vous écoutez tout, moi j'étais aligné sur le fond de ce qu'il disait. Voilà. On a déjà discuté, on va rediscuter et on va se voir jusqu'à lundi, mardi prochain, et puis discuter de tout ça. Mais il n'y a pas de raison qu'on soit pas aligné. Mais il a raison de prendre cette réserve là. Enfin voilà, pas de sujet.
Je trouve pas ça si rassurant que ça non plus. Hein.
Mais ce contexte, comme un joueur en fait, quelque part, voilà, il est sollicité. Hein. Il l'a dit, Franck Haise. Il y a des clubs qui s'intéressent à lui. Arnaud Pouille le sait. Joseph Fourgourlian le.
Pas qu'en Ligue 1, à l'étranger aussi. Hein,
oui. Alors, on n'a pas le nom des clubs, mais voilà. Après, il faut pas oublier une chose. Hein. Il est manager général. Il a un regard surtout Racing Club de Lens. Il aura pas ça partout. Donc c'est pas. Et... C'est... Mais voilà, c'est petite pression.
Trop de tendance à vouloir plus également chaque mois. Sur le compte en banque ou pas?
Il était bien augmenté. Il a été revalorisé au moment où il y a eu le départ. Ouais. Ils ont renforcé son salaire entre guillemets, aussi son statut, qui est passé de coach à manager général quand Florent Ghisolfi est parti à Nice avec deux préparateurs physiques. Voilà, il y a eu à Lens, on s'est dit oula, on est en train de se faire piller, on va blinder Franck Haise, on va lui donner du pouvoir un peu plus, et puis
en octobre sa dernière revalorisation. Mais pour moi c'est une tempête dans un verre d'eau, parce que je trouve qu'il est dans son rôle. Je sais qu'il y a des gens qui ont été choqués par ses déclarations, mais il dit juste je l'espère. Il a pas dit on va discuter machin, il a juste dit je l'espère, et je pense que c'est juste une manière de dire qu'il n'a pas envie de perdre de nombreux cadres et donc d'affaiblir son équipe. Il a envie de faire bien en Ligue des Champions, il a envie d'avoir le matériel qu'il faut pour arriver.
À quoi bon le dire un dimanche soir
petit NFP, coup de pression comme à ses dirigeants,
c'est un peu surpris au club.
Oui, je comprends.
comprends, mais c'est le petit coup de pression classique.
Ça lui ressemble
auprès
pas,
de ses dirigeants. Ça lui ressemble pas, je suis d'accord. Mais tout comme ça ne ressemblait pas au RC Lens de se qualifier directement en Ligue des Champions. Donc je pense qu'il est dans son droit de mettre ce petit coup de pression.
Kevin.
Mais de toute façon, tout à l'heure, on en parlait pour les joueurs de Toulouse. Tu sais, quand tu surperformes, et c'est Francaise qui en a parlé une bonne partie de la saison, en tout cas la première partie de saison, même l'an dernier, le Racing Club de Lens, c'est un club et une équipe qui surperforme. Mais le premier qui peut juger la surperformance, c'est bien sûr l'entraîneur. Et il sait très bien que son équipe ne pourra pas continuer comme ça, ad vitam aeternam, avec plus de 75 points en Ligue 1. Ce qu'ils ont fait cette année, et c'est Stéphane qui le disait dimanche, et il a complètement raison, ça reste de l'ordre de l'exceptionnel. Et donc, forcément, quand tu es entraîneur, ce que tu veux, c'est de la continuité. Mais pour de la continuité, il faut aussi de la qualité. Il faut déjà garder tes meilleurs éléments. Il faut arriver à en additionner. Et aujourd'hui, moi, si je suis Francaise et que, par exemple, j'ai Pablo Longoria qui frappe à ma porte, je dis pas que je vais à l'Olympique de Marseille.
Écoute.
Mais t'es obligé d'écouter.
Bien sûr.
T'es obligé d'écouter parce que tout à l'heure, on parlait de salaire pour Karim Benzema. Donc, pour garder un fil conducteur dans cet after. Si aujourd'hui, il est revalorisé à Lens, il doit quand même gagner deux fois moins qu'Igor Tudor à Marseille. Et donc, on parle du simple au double. On parle d'un autre marché.
C'est pas la même économie, exactement.
Comme disent les Américains. On parle d'un club ou de clubs qui pourraient être intéressés par Francaise qui ont le double, triple du budget. Donc, il y a un moment, t'es obligé d'écouter. Je ne dis pas qu'il doit y aller, parce que bien sûr, t'as envie de vivre la Ligue des Champions avec ce club en tant qu'entraîneur, et je pense que c'est son cas. Mais il ne veut pas y aller non plus à n'importe quel moyen, et tout dépendra aussi des offres qu'il peut recevoir.
N'oubliez pas qu'il y a l'aspect manager général du club.
Mais le manager général, Thibaut, Kevin. Tu sais, s'il perd les quatre premiers matchs, il sera remis en question.
Et la tendance aussi, très important, la tendance, c'est que la grosse tendance, c'est qu'il reste. Il n'y a pas de.
On est
assez confiant, voilà, il y a des choses, il y a des petits détails à régler, certainement, voilà, sur l'effectif, c'est le challenge le plus important pour Francaise pour repartir tranquille en début de saison prochaine.
Et oui.
Mais pour l'instant, non, il y a pas, voilà, il y a, on sent, en tout cas, j'ai pas senti d'inquiétude de la part de différents dirigeants.
Si on prolonge sur Francaise et le RC Lens, on parlera également des joueurs à forte valeur marchande d'un côté lensois qui peuvent agiter le mercato cet été. D'abord, c'est la mi-temps au basket entre Boulogne-Levallois et l'Asvel, Arnaud Valadon.
Et l'Asvel qui relance un petit peu le suspense puisque les Mets ne mènent que 43 à 36 à la pause de ce match 2 des demi-finales de LNB.
C'est vrai que le budget, Sophie, tu veux te prendre la parole peut-être par rapport à Francaise et sa communication.
Déjà sur la sortie, moi je la trouve pas gênante du tout et je la trouve même plutôt pertinente, même dans ce contexte-là. Je veux dire, pour avoir un impact sur ta sortie, le faire au trophée UNFP, je trouve ça moi plutôt pertinent, intelligent, malgré tout ce qu'on puisse, tout ce qu'on peut dire, pardon. Et après, il y a un truc à mettre en avant aussi, c'est que là, la saison de Lens est extraordinaire, 81 points, 84 points potentiellement. Mais faut aussi ne pas oublier que dans cette saison, que ce soit au début, au milieu, tu as été pillé. Tu as été pillé avec trois joueurs à des postes clés, Jonathan Clauss, Doucouré au milieu de terrain, Kalimuendo qui est reparti, qui est parti à Rennes ensuite. Au mercato hivernal, il y a eu des secousses quand même extraordinaires avec le départ de Gisolfi et une partie aussi du staff. Mais c'est passé parce qu'en fait, ils finissent la saison deuxième. Ah bah non, c'est comme
ça. Mais c'est pas un peu fort quand tu vois les remplaçants qui sont arrivés?
Ah mais d'accord, mais tu peux avoir des remplaçants, mais tu peux aussi te mettre dans la peau de Francaise et te dire, au terme de cette saison qui a été très positive pour nous, on a quand même eu des secousses sur l'effectif à des postes clés, on a eu des secousses en interne, et j'ai juste envie de dire à mes dirigeants, attention les copains, dans une saison de Ligue des Champions qu'on va entamer, il faudrait peut-être éviter de reproduire ce schéma-là.
J'aimerais te répondre là-dessus. C'est intéressant parce que tu parles donc des départ du RC Lens, et là je pense que le point d'achoppement entre Francaise et sa direction, c'est l'effectif qui lui sera proposé pour accompagner Lens sur la scène européenne. Moi, quand je vois la manière dont Lens a été capable de retenir la majorité de ses joueurs l'année dernière, alors certes, le départ de Toucouré oublié au bout de 5 journées avec l'arrivée d'Abdoul Samed, le départ de Jonathan Clauss, on l'a amplement oublié. Devant, tu perds certes Kalimuendo, mais t'as Openda et Bouska. Alors Bouska, il se blesse, il se blesse, c'est pas, voilà, ça c'est un coup du destin, mais t'as quand même deux attaquants qui arrivent pour en remplacer un, tu vois ce que je veux dire.
D'accord.
Et si je suis Francaise, moi je sais que en interne j'ai la capacité d'aller chercher des joueurs pour étoffer mon groupe avec un certain flair, mais je veux m'assurer quand même que les moyens seront à ma disposition, pas pour remplacer les départs, mais pour aussi élargir le groupe. Et je pense que le point d'achoppement, c'est ça. C'est pas le fait de craindre que des joueurs vont partir, mais c'est simplement d'avoir un petit peu plus de joueurs parce qu'il y aura beaucoup plus de matchs l'année prochaine.
Et on bien enchaîner les matchs de Ligue des Champions avec le championnat.
C'est ce que je te dis,
voilà,
Gibo.
C'est ouais. ça, exactement.
Parce que cette saison, Gibo, juste pour dire, en début d'année, t'avais acheté Cabo, qui s'est blessé gravement pendant toute la saison. Et parce que là, en fait, on oublie 81 points à Lens, on se dit c'est normal. Mais combien de fois dans la saison ils ont dû bricoler?
Je pense. On n'a pas dit que c'était
je veux dire, c'est normal par rapport à l'effectif qu'ils ont. Mais combien de fois ils ont bricolé cette saison? Alors avec des très bonnes idées quand ils utilisent Sotoka. Piston droit, c'était exceptionnel, mais ils ont quand même bricolé avec Frankowski, avec Machado. Il y a eu des blessures, notamment l'absence d'Abdoul Samed pendant quelques temps avec son carton rouge a été très bien remplacé.
Personne ne pense que c'est normal.
Mais ce que je veux dire, c'est que faut faire très attention et je trouve que mettre un petit coup de pression à ce moment-là, c'est bienvenu.
Daniel est avec nous, 32-16, supporter du Racing Club de Lens. Salut Daniel.
Salut Daniel.
Daniel Moreira, non?
Pas Moreira, non.
Daniel. J'avais le maillot de Daniel Moreira.
C'est lui qui m'a fait mes premiers émois au football.
Ah, magnifique.
J'avais le même prénom, j'étais petit, j'étais content.
Joueur panache, Daniel Moreira.
Et voilà, fédération, je crois.
Ah, vrai, je dis.
Alors, Daniel, est-ce que ces déclarations de Franquès t'a fait réagir, toi?
Eh ben, sur les déclarations, depuis samedi et dimanche, en apnée. Mais quand j'ai vu tout à l'heure Arnaud Pouille et Grégory Thiel dans les émissions des supporters, ça y est, je respire un peu, j'ai repris ma respiration. Et ils ont été plutôt rassurants avec un oui franc et direct en disant que Franquès allait rester et qu'il allait pas avoir, il allait avoir quelques départs, mais pas un dépouillement total. Et quand je parle de départ, je me disais Danso au début de il y a quelques semaines, je me disais Danso ou Medina, un des deux.
Ouais.
Et sinon, c'est quoi Fofana, capitaine, il va jouer avec des champions. Je ne sais pas s'il va partir au
Penda. Franchement, Daniel, est-ce qu'il aura des offres à la hauteur d'éventuelles attentes?
Qui joue avec des champions. Alors c'est vrai qu'on sait qu'il veut un top club à l'étranger. France, mais l'année dernière, il a pas trouvé chaussure à son pied.
Alors qu'il avait fait une meilleure saison que l'actuelle.
On est d'accord. Moi, je trouve
Je suis pesant
l'année dernière.
La plus grosse offre, elle risque d'arriver évidemment pour Openda. Mais je pense qu'Openda, à 23 ans, la possibilité de découvrir la Ligue des Champions avec le RC Lens, il te fera une année en plus. C'est l'année prochaine que je m'inquiéterai le plus. S'il y a une hémorragie, ça sera l'année prochaine. Parce que on va voir comment ils vont gérer l'enchaînement championnat Ligue des Champions. On verra quelle sera la place en fin de championnat. Et je pense que s'il y a une fin de cycle, ça sera à l'intersaison d'après.
Et puis il y a l'Euro aussi pour Openda. Il y a une confiance évidemment, très forte avec évidemment. Les Diables Rouges, Lukaku. Donc il est bien dans ce club. Peut jouer la Ligue des Champions. Et changer de club, c'est risqué. Il peut être un joueur important des Diables Rouges, Daniel, en Allemagne.
Et comme a dit Franquès pendant la conférence de presse avant Ajaccio, Openda a un très grand contrat. Donc Openda, il veut garder au moins encore une année.
Djibo, par exemple, quelles sont la situation des prêtés, je pense à Alexis Claude Maurice ou à Fulgini.
Alors Fulgini, ça va se transformer en
option d'achat.
Mais ils vont le garder.
Ils vont
sûr.
Le garder. Ouais.
Alexis Claude Maurice, on avait un petit doute parce qu'il y a c'est un qui a perdu sa place qu'on n'a plus vu, c'est David Pereira da Costa. Oui. D'ailleurs avec Alexis Claude Maurice qui prenait pas mal d'ampleur. Alors Fulgini et Thomasson se sont vraiment imposés en fin de saison, mais il y a une tendance qui serait de garder Alexis Claude Maurice
comme remplaçant de luxe.
Ouais, voilà, comme Wesley Saïd qui a été souvent blessé. Il y a des solutions, mais peut-être que sur le banc, il faut peut-être aller des joueurs peut-être un petit peu plus costauds. Quand il fait ses changements, ça passe bien. Mais avec la Ligue des Champions, faut peut-être un cabot sur le banc en grande forme. Bon là, il a un problème avec son genou, donc.
Buxa, on en est où sur la rééducation, sur la
Buxa, il a réintégré le groupe en fin de saison, cette saison, tu peux pas juger. Franchement, impossible.
Sur Pereira da Costa, il a une blessure à l'épaule au début de saison. Et je pense que ça va beaucoup freiner. Justement, je sais plus s'il s'est fait opérer ou pas.
Non.
Ah ouais. C'est...
Mais tu sais, il a subi aussi la concurrence.
Ouais, c'est ça.
Et à un moment, il pensait que c'était acquis. Tu sais, l'arrivée de Thomasson, même Alexis Claude Maurice, à un moment, était passé devant lui.
Ouais, quand même.
Fulgini, il faut qu'il.
Bon, on verra aussi, parce que
faut pas insulter l'avenir à court terme, mon cher Jonathan. Il peut se passer beaucoup de choses au cours de l'été.
Brice Samba, on a gros départ pour Maxi.
La classe d'un Brice Samba va sûrement attiser les convoitises. On verra pour Danso, Medina, Openda notamment.
C'est des bons problèmes quand même, faut le dire.
C'est des bons problèmes.
Et moi, je me mouille maintenant. Buxa et mes 15 buts en Ligue 1 l'année prochaine. Quand il est arrivé, je m'étais beaucoup renseigné sur lui. C'est un sacré joueur.
On verra quand il enchaînera les matchs avec Lens, effectivement. Daniel, merci.
Si je peux faire une petite dédicace.
Bien sûr, vas-y.
À ma copine Tiffany.
Oh, le canard.
Qui m'a supporté pendant un an avec la meilleure saison de ma vie. Merci à elle, je l'aime et j'espère que l'année prochaine on fera un petit voyage en Europe pour aller voir l'enfant.
J'espère que tu feras vite la meilleure saison de sa vie l'année prochaine.
J'espère aussi pour elle. Bah, merci à vous en tout cas et salut. À bientôt.
Petit voyage romantique à Manchester, un truc comme ça, c'est pas mal. Ouais.
Bonne soirée à toi, Daniel.
Un petit Milan, elle serait contente plus l'Italie.
Ouais. Tu reviens quand tu peux voyager sans le football aussi, hein, mon Daniel, c'est possible.
Oui.
Je pense qu'elle appréciera. Merci Daniel, salut, très bonne soirée à toi. Jibo, merci.
Salut Jibo.
On reparlera de Lens au cours de l'été avec toi.
Sachez qu'il y a 20 000 personnes qui attendent un abonnement. Il y a une liste d'attente de 20 000. On est déjà à 29 500. Et ça sera dans l'ordre de la liste d'inscription. Mais ça va être dur parce que quand t'es abonné, t'es prioritaire pour aller en Coupe d'Europe.
On va commencer à faire comme au Paris Saint-Germain à Lens. On va acheter un abonnement pour revendre.
Pour revendre et faire une plus-value.
Ah, mais c'est terrible.
Sujet qu'on abordera bien sûr dans les prochaines semaines.
Une place à Bollard.
Évidemment, je rappelle que le budget.
C'est le filon, ça.
Le budget de Lens va passer la barre a priori des 100 millions d'euros avec
115. C'est ce qu'ils ont déposé à la DNCG.
La deuxième place en Ligue 1 qui va apporter beaucoup d'argent, la qualification pour la phase de poule, et c'est pas terminé, bien sûr. Et puis on espère faire agrandir l'affluence à Bollard dès la saison prochaine. Merci Jibo.
Salut Jibo.
Bonsoir les amis.
À retrouver dans l'intégralité ton entretien avec Arnaud Pouille sur le site rmcsport.fr. Dans un instant, voilà le sujet. Alexandre Lacazette est-il le mal-aimé du football français? Je pensais une chanson, ça.
Pourquoi les Lyonnais croient tous qu'ils sont mal-aimés?
C'est très bonne question également. Restez avec nous, la
suite de génération. Pour
le tennis avec Eric Salio. Rapidement, il y a un Français. On a vu Arthur Fils. Voici mon fils, Eric Salio.
Salut Nicolas. Oui, il y a même deux Français, Nicolas. Je vais commencer par le match du cours numéro 7 qui est palpitant puisque Quentin Alice et Guido Pella sont dans le super tie-break du 5e set. Et l'Argentin, malheureusement, mène 8 points à 4, 9 points à 4 désormais, donc balle de match pour Guido Pella. Et puis sur le central, c'est parti depuis une heure entre Gaël Monfils et Sébastien Baez, encore un Argentin, et le petit Argentin a pris le premier set, 6 jeux à 3, il y a 2-2 dans le deuxième set. Et puis juste un mot sur Richard Gasquet, il est venu en conférence de presse, je rate sur ses fans, il veut encore jouer un ultime Roland l'an prochain.
Magnifique information, signé Eric Salio. Reste avec nous la suite de Génération After avec Sofiane Zouaoui, Jonathan Macardy et Kevin Diaz sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin. Avec Kevin Diaz, Jonathan Macardy et Sofiane Zouaoui. Avant qu'on parle d'Alexandre Lacazette, c'est reparti au basket à Bercy. Demi-finale, match 2 entre Boulogne-Levallois et Lyon-Villeurbanne. Arnaud Valadon.
Depuis 55 secondes et le dunk rageur du pivot de l'Asvel, Youssouf Afal, qui permet aux Rodaniens de revenir à 5 points, 43-38. Il y a match dans ce match 2 des demi-finales de Betclic et Elite. 5 points d'avance pour les Metropolitans 92 à 9 minutes de la fin du 3e quart-temps.
Roland Garros, après la défaite du père Benoît Père, après la défaite du fils Arthur Fils, y aura-t-il la défaite de Gaël Monfils, mon cher Eric Salio?
Écoute, il faut espérer que Gaël enflamme le central, mais il y a du mieux depuis quelques minutes puisque le Français mène 4 jeux à 2 dans la deuxième manche. Je rappelle qu'il a perdu le premier set 6 jeux à 3 face à Sébastien Baez, qui est un petit gabarit mais qui est très accrocheur sur terre, 42e mondial. 4-2 donc pour Gaël Monfils, pour la Monf dans cette nice session qui s'annonce. Et j'ai une question pour Kevin Diaz, hein. Je sais pas si Kevin a suivi l'actu. Medvedev a été battu par un joueur brésilien, mais on n'a pas la prononciation, on n'arrive pas à savoir.
Dis-moi.
Sebot Wild.
Il faudrait que tu puisses le lire en fait et que tu les sous les yeux, Kevin.
TH et Wild comme sauvage.
Bon, Kevin va travailler la prononciation du 172e joueur mondial qui est battu numéro 1 mondial.
Sebot ou Sebot Wild.
Waouh, super. Magnifique.
Magnifique. Moi, je devrais faire aussi, je pense.
C'est pas un nom à consonance, c'est pas une orthographe à consonance un petit peu allemande.
Pas du tout, je pense pas.
Je sais pas.
Il le fait avec beaucoup plus de naturel,
peut-être.
Kevin. Ouais.
Peut-être.
Il y a beaucoup d'allemands à
ça. Oui, quand ta tête se déforme quand tu le dis. C'est pas Kevin Diaz. Hein.
À tout à l'heure, Eric. Alexandre Lacazette, 27 buts cette saison en Ligue 1, deuxième meilleur buteur du championnat de France pour le moment.
passé devant Kylian Mbappé lors de l'ultime journée. Est-il le mal-aimé du football français? Avis de Sofiane Zouaoui. Jingle, Sofiane.
Qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'on veuille nous faire croire qu'il ne s'est rien passé. Excusez-moi, c'est horrible à chaque fois.
Bah oui, mais c'est le jeu, hein.
C'est une horreur.
T'as voulu venir dans l'after, dans Génération After, tu savais à quoi tu t'exposais.
Bah, il n'est pas là depuis longtemps, il y a quelques jingles quand même.
Oui, c'est vrai qu'en une dizaine d'émissions, il a fait plein. C'est
très la fort. Première, le ballon d'origine.
Très bonne rentabilité, Seven Zoe.
On m'a dit de faire mes preuves rapidement, j'ai écouté. Je suis très content parce que c'est un débat que je voulais faire depuis longtemps. Déjà en 2019, on en parlait d'Alexandre Lacazette et du fait qu'il soit mésestimé. Là, je pense que c'est le très bon moment pour le faire. Donc, on m'offre la possibilité d'y aller, donc j'y vais. 27 buts en Ligue 1, 5 passes décisives cette saison. Il y a un truc qui est fou, c'est que son retour à 32 ans, il aurait pu être un gâchis monumental à l'OL parce que revenir dans son club, surtout dans les conditions dans lesquelles sont l'Olympique Lyonnais cette saison et le changement d'effectif qu'il a subi au mercato d'été puis au mercato hivernal, je trouve que c'est une performance vraiment très très forte, individuelle qu'il a réalisé cette saison. C'est peut-être pas le meilleur joueur de Ligue 1, en tout cas c'est la perf individuelle de cette saison. Ne pas le voir dans les trophées UNFP, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était une honte, ou en tout cas quelque chose de très surprenant, mais ça m'a fait penser et je me suis dit, au final, ce joueur-là il a 32 ans aujourd'hui, est-ce que c'est pas le mal-aimé du football français si on regarde un petit peu sa carrière? C'est un joueur qui est pour moi qui est peu considéré et on n'est pas loin du délit de sale gueule par moment. Je trouve qu'il subit pas mal l'idée que en fait Alexandre Lacazette est réduit au pénalty. Alors c'est très marrant sur les réseaux sociaux les vannes, je vais pas dire le contraire, mais pénalty pour Lyon à mon avis lui a fait beaucoup de mal, alors qu'en termes de pourcentage de buts marqués sur pénalty, il est pas du tout au-dessus des autres. Je pense aussi que son départ à Arsenal, à un moment où il pouvait peut-être aller à l'Atlético Madrid, qui a été d'ailleurs interdit de recrutement à ce moment-là, était considéré comme un échec parce que c'était pas l'Arsenal de l'époque. C'était un Arsenal où on voyait potentiellement, bon, un départ en première ligue c'est cool, mais c'était moins bien que ce qu'il aurait pu imaginer. Mais moi je pense que ce qui lui a fait aussi beaucoup de mal, c'est son histoire avec l'équipe de France. Je sais qu'il y a la liste demain, donc on est entre les trophées UNFP et l'équipe de France, je suis obligé de relier les deux. Il sera pas appelé évidemment, puisque ça fait 10 ans qu'il n'est pas, enfin 10 ans, ça fait 10 ans en gros qu'il y a eu la brouille au Brésil. Donc je pense
dernière apparition en 2017.
Exactement, doublé face à l'Allemagne d'ailleurs.
Il finit sur un doublé quand même de l'équipe de France.
Exactement, hein. ce qui est quand même fou. Il y a plusieurs moments où il aurait pu pour moi rejoindre le wagon des Bleus et avoir cette carrure de joueur un peu plus respectable aux yeux du public français. T'as l'Euro 2016 où il sort d'une saison avec 21 buts et en 34 matchs de Ligue 1. Deschamps lui préfère Gignac notamment, qui était au Mexique. Mondial 2018, il sort trois saisons en Ligue 1 à plus de 20 buts, ce qui est le premier joueur à faire ça dans ce siècle, trois saisons à plus de 20 buts en Ligue 1. Il commence très bien à Arsenal d'ailleurs aussi. On lui préfère Thauvin dans la liste, alors qu'il y a déjà deux ailiers droits dans cette liste et aucun avant-centre, enfin à part Giroud. On va me dire, Mondial 2018, on est champion, donc Sofiane, tais-toi. Mais si Giroud s'était blessé dans cette liste-là, il y aurait eu la question à se poser du numéro 9.
Sofiane, on est champion en 2018. Donc.
Oui, voilà, donc il y aurait eu la question à se poser si Giroud s'était blessé. La réalité, parce que là aussi on parle de côté mal aimé, de mésestimé, la réalité c'est qu'il y a une brouille avec le coach en 2013 sur la tournée en Amérique du Sud. On sait très bien que ça date de là. Mais moi je trouve qu'il y a un côté malsain par rapport au mandat de Deschamps, c'est-à-dire que on se pose la question de savoir est-ce que c'est juste ou pas qu'il prolonge à chaque fois. Moi je donne pas mon avis, on l'a donné 50 fois à ce niveau-là. Mais quand t'as un coach, un sélectionneur qui dure autant de temps dans une sélection, eh ben avec Lacazette par exemple, il y a un côté malsain parce que c'est comme s'il avait droit de vie ou de mort sur sa carrière internationale, parce que c'est la réalité au final. Il aurait pu l'intégrer à certains moments. J'ai parlé au début de 2019, je me rappelle en août 2019, il sort d'une saison avec Arsenal où il les emmène en finale de Ligue Europa, où il est très bon sur la saison. Je me souviens qu'Mbappé n'était pas dans cette liste parce qu'il était blessé. Il lui préfère Ikoné pour sa première sélection et Ben Yedder. Donc c'est pour dire que il y a un côté gênant. Il y a un côté gênant dans la carrière de Lacazette avec Deschamps. Et je trouve ça fou aussi, et c'est pour ça que j'en parle, c'est que le débat finalement n'existe que très peu. Il a 32 ans aujourd'hui. En 10 ans, on a eu très peu de débats de conférences de presse où il y a un journaliste qui pose la question, est-ce que c'est normal qu'Alexandre Lacazette, qui est un mec régulier, qui est un mec qui a jamais posé de problème, qui est un mec qui a jamais dit dans les médias, comme beaucoup de joueurs l'ont fait, moi je trouve ça honteux que je sois pas sélectionné en équipe de France. Je trouve ça fou que le débat ne soit si peu revenu au final pour une référence d'attaquant français en Ligue 1 et même à Arsenal, parce que moi j'entends échec. sur la globalité, sur la fin peut-être un petit peu, mais sur la globalité, on est dans une équipe qui était pas le Arsenal d'aujourd'hui. Il est capitaine dans cette équipe-là. Il est très important dans le jeu collectivement, dans les buts aussi sur les premières saisons et dans les parcours européens. Giroud est droit au pardon, Benzema est droit au pardon, Rabiot est droit au pardon, Gignac, Pavard, je les mets dans le désordre, hein. Mais le seul qui a eu une sortie de route apparemment et qui n'a jamais été pardonné, c'est lui. Donc son seul tort, c'est de n'avoir jamais rien dit et au final de s'être concentré sur le terrain. Et apparemment, ça suffit pas.
C'est vrai qu'il y a une énigme, hein, autour de la relation Deschamps, Lacazette. Hein, on n'a jamais su réellement ce qui avait pu se passer lors du rassemblement entre l'attaquant d'Arsenal à l'époque et le sélectionneur Deschamps. Après, on accueillera Pierre au 32-16, Kevin.
Écoute, un beau plaidoyer de notre ami lyonnais.
T'as chialé ou pas?
Très argumenté.
Ouais, ouais. Ok. Presque.
On aurait dit acquittateur, tu sais, l'actuel ministre de la défense, de la justice.
Oui. Merci. Merci pour la comparaison.
Maintenant, moi, je pense qu'Alexandre Lacazette, c'est quand même un attaquant très respecté en France. Moi, je pars du principe que dans le football, on a souvent ce qu'on mérite. Et je trouve que Alexandre Lacazette, il a quand même une très belle carrière. Aujourd'hui, il est cité, moi, on l'a cité cette année comme un exemple et comme un joueur extraordinaire pour ce qu'il a fait avec l'Olympique Lyonnais dans une équipe qui était en difficulté, dans un club même qui était en difficulté. Maintenant, il a aussi toujours eu cette forme de détachement, j'ai envie de dire presque de nonchalance, si tu me permets, qui fait que, pour avoir commenté énormément de matchs d'Arsenal, ça a toujours été un joueur plutôt collectif, un joueur qui faisait jouer l'équipe, que ce soit par ses décrochages, par ses appels, par ses passes, mais il avait aussi cette forme de nonchalance des fois dans le jeu, et je trouve que ce n'est pas du tout, hein, tu me connais pour défendre Didier Deschamps, mais Didier Deschamps, en tout cas dans sa logique, pour faire partie de l'équipe de France, il faut être un joueur qui compte sur le plan européen. Et même si il fait un beau parcours, c'est vrai, en Europa League avec Arsenal, où d'ailleurs c'était une saison où il y avait beaucoup de baby gunners qui ont fait le parcours, notamment en phase de poule, et lui était là plus pour les encadrer. Mais Alexandre Lacazette, ça restera, et c'est déjà très bien, comme un très très grand attaquant de Ligue 1. Est-ce qu'on peut dire que Alexandre Lacazette est connu en Allemagne, en Italie ou en Espagne où il n'a pas joué? Je suis pas sûr. Qu'il est cité dans
les... Italie un peu. Il y avait eu les rumeurs à Milan notamment.
Ouais, à l'Inter aussi. Tu penses que Bajider, il est connu en Allemagne, en Angleterre?
Je pense qu'en Espagne. En Italie En Espagne, ce qu'il a fait sur le plan européen, quand même, c'était.
Et donc, Kevin, toi, au bout de.
Non, j'ai dit juste dans la philosophie et dans la réflexion de Didier Deschamps. Maintenant, moi, ça me perturberait pas de voir Alexandre Lacazette en équipe de France aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il arrive, et comme beaucoup de joueurs, passé les 30 ans, avec une certaine maturité. Et cette maturité, on le voit, le leadership. Il a peut-être toujours été, mais aujourd'hui, notamment, il l'est, mais ça se voit sur le terrain. Mais... Quand il prend le ballon de façon rageur contre Montpellier pour ramener son équipe et ramener le ballon au central, tu sens qu'il a 11 mecs, voire 18 derrière lui et qu'il a tout un stade avec.
Kevin et Sofiane, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Malheureusement, il faut prendre en compte le logiciel de Didier Deschamps et pour ça, il n'a aucune chance de réintégrer l'équipe de France.
C'est quoi alors,
précisément sur ce cas-là,
c'est d'avoir
de tuer des carrières en France. Je pense qu'il y a surtout, il y a eu Deschamps privilégié surtout ce qu'il appellerait l'expérience de groupe. Et que malheureusement, dans la précédente expérience de groupe, équipe de France, il y a une finale de Coupe du Monde avec un joueur, par exemple, qui s'appelle Randal Kolo Muani, qui est très jeune, qui forcément sera privilégié par Didier Deschamps parce que il incarne l'avenir. Et malheureusement, pour Lacazette, alors je sais pas s'il a pas pâti du fait de jouer dans un club qui à un moment était un peu considéré comme un club de losers qui est Arsenal, même s'il a fait des très grosses saisons avec Arsenal. Et le fait que sur la scène européenne, ça n'a pas été tout le temps ça, mais malheureusement je pense que le train est déjà passé parce que la nouvelle génération qui arrive a la confiance de Didier Deschamps, donc je te rejoins à 100%, il le mériterait amplement, mais j'ai du mal à le voir réintégrer un jour les Bleus. Après, c'est dommage, mais j'ai aimé un truc que tu as dit dans ton avis, et ça je trouve qu'on n'a pas assez souligné, c'est que son retour à 32 ans, il est triomphant. Il y a très peu de retours passé la trentaine, même dans les clubs formateurs. Il y a très peu de retours passé la trentaine dans les clubs formateurs qui sont aussi réussis, et ça, faut vraiment tirer notre chapeau à Alexandre Lacazette.
Ouais. Mais c'était pour juste pour finir sur un truc, c'était pour le réhabiliter aussi par rapport à l'image qu'on a du joueur soi-disant qui
quoi l'image.
Mais je pense qu'il est mésestimé.
Mais pourquoi?
Je pense qu'il est mésestimé par rapport au fait qu'il n'a que 16 sélections, qu'il a que 5 titularisations en équipe de France.
Mais ce n'est jamais un problème relationnel.
Il n'est jamais dans les débats.
Mais les deux ne veulent pas en parler. Deschamps n'a jamais voulu en parler. La question a été posée plusieurs fois en conférence de presse. Il n'a jamais voulu évoquer.
Parce que là, en fait, on ne parle pas d'un club. C'est-à-dire que quand on est dans un club avec un joueur, il ne s'entend pas avec le coach. Le joueur, il peut se casser. Ou le coach, il peut se casser. Là, on est quand même dans une dimension particulière avec les
quasiment de mission de service public.
Exactement. C'est-à-dire que en 10 ans, on a eu zéro explication. Ça, c'est normal.
On va prolonger, évidemment, mon habitude avec le sélectionneur de l'équipe de France. Balle de 7 pour Gaël Monfils, Eric Salio.
Absolument. Balle pour revenir à une manche partout pour la Monf face à Sébastien Baez. On est dans un échange très, très dur physiquement. La Monf est dans les cordes. Baez lui fait visiter le cours central. Petite remise de Gaël Monfils. Allez, il y a un passing. C'est fait. Un 7 partout, messieurs dames. Et là, le central explose.
Quelle soirée ça va être pour Eric Salio sur le central de Roland-Garros. On va suivre ça avec toi jusqu'au bout de la nuit, de la soirée, tout du moins. On revient dans un instant. Pierre, attends, au 32-16, supporter lyonnais également. Alexandre Lacazette est-il mésestimé, sous-estimé, pas en tout cas apprécié à sa juste valeur. Reste avec nous, c'est Génération After RMC, 21h48.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, Jonathan McCarty et Sofiane Zouaoui, on prolonge sur le débat sur Alexandre Lacazette. Est-il sous-estimé? En tout cas, pas apprécié à sa juste valeur. D'abord les directs, le tennis, Eric Salio. Un set partout entre Monfils et Baez.
Absolument, 6-3 pour le petit Argentin et 6-3 il y a quelques minutes pour Gaël Monfils dans une ambiance absolument extraordinaire avec des holas, vous en doutez, entre la fin du set, puisque le temps qu'on arrose le cours. Le troisième set vient de débuter à l'instant et puis sur le cours de il y a un match sympa entre Azarenka et Andreescu dans le tableau féminin. C'est Andreescu le canadien qui mène 5-3 troisième.
Mais à tout à l'heure, Eric. Le basket, rapidement, Arnaud Valadon, la demi-finale du championnat de France, Boulogne-Levallois, Lyon-Villeurbanne.
Et les Franciliens qui ont repris une marge de sécurité, plus 12 pour Boulogne-Levallois, 64-52 à 1 minute 37 de la fin du troisième quart-temps. C'est pas Wemby qui fait le show, mais ce sont ses partenaires, notamment Konaté et Thomas, qui sont les meilleurs marqueurs de la formation levalloisienne et boulonnaise.
Pierre est avec nous, supporter de l'OL. Salut Pierre. Bonsoir Pierre.
Salut Nicolas.
Heureux de t'accueillir dans Génération After. Alors, tu réponds quoi à l'avis de Sofiane à l'instant? Tu es supporter lyonnais, je le rappelle, c'est important quand même. Ouais. Est-ce que tu estimes que Lacazette est mésestimée?
Mal aimé.
Ouais, moi, globalement, je comprends en tout cas ton point de vue, Sofiane. Mais je dirais, je suis plutôt d'accord avec Jonathan sur le fait qu'il a surtout payé le logiciel Didier Deschamps, qui n'aime pas les joueurs de Lyon, qui n'aime pas les joueurs de Ligue 1 plus globalement, hein, qui quand ça prouve pas en Ligue des Champions.
Il n'aime pas les joueurs de Lyon.
C'est aussi un joueur d'Arsenal, hein, quand même, Lacazette, Pierre.
Umtiti, Tolisso.
Oui, la mauvaise période d'Arsenal, faut se l'avouer. Comme je disais, les joueurs de Lyon, mais globalement, les joueurs de Ligue 1, je crois qu'il a toujours fallu prouver en dehors de la France et notamment Ligue des Champions pour être en équipe de France. Donc Didier Deschamps n'a jamais aidé un joueur de Ligue 1 à se faire montrer au niveau mondial. Mais globalement, faut aussi avouer que Deschamps, il a eu les résultats pour lui. Il s'est appuyé principalement sur Benzema et Giroud en tant que numéro 9. Et il a oublié plein de joueurs autour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regarde un petit peu la Ben Yedder, par exemple. Il a à peu près les mêmes caractéristiques que Lacazette, c'est-à-dire globalement 250 buts, si je dis pas de bêtises, à peu près en Ligue 1, à peu près une dizaine de sélections en équipe de France, comme Lacazette, comme Bafé Gomis, qui a dû mettre aussi 250-300 buts en Ligue 1,
au moins,
et qui est à une dizaine de sélections en équipe de France. Donc je pense qu'il en veut pas particulièrement Lacazette, c'est simplement que dans le profil des attaquants qu'il a besoin en équipe de France, il a besoin d'un joueur soit extraordinaire comme Benzema, soit très costaud comme Giroud.
Rapide aussi.
Je crois que Lacazette était devant Giroud Arsenal, donc c'est pas une question de niveau de joueur, mais aussi un principe de jeu, et qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui je suis tout seul en pointe à l'OL, c'est quand même pas l'attaquant de pivot rêvé Lacazette, faut quand même dire la vérité, et même si moi j'adore à Lyon, je pense aussi que sa meilleure période quand c'était à Lyon, c'était quand il formait un duo avec Fekir, et que la plaisir de Fekir, elle a pas fait mal que à Fekir, elle a aussi fait mal à Lacazette, parce que ce duo-là aurait pu être un énorme duo en équipe de France.
Non, mais juste, moi, je suis pas d'accord sur la proximité de profil entre Lacazette et Ben Yedder. T'as l'impression qu'ils se ressemblent. Moi, Ben Yedder est un joueur qui est beaucoup plus à l'aise dans une attaque à deux. Alexandre Lacazette est totalement capable de jouer seul en pivot, en pointe. Il l'a fait à Arsenal. Il le fait à l'Olympique Lyonnais.
Ouais, mais il fait pas 1m80, Lacazette, tu te rends compte?
Oui, mais après, tu caricatures aussi sur le style de Deschamps. Deschamps qui a quand même évolué sur les dernières saisons. Il est quand même capable de s'adapter aux caractéristiques d'Alexandre Lacazette. Moi je te dis, hein, je demande à Mbappé si ça lui conviendrait pas de jouer avec un joueur comme ça à côté de lui. Moi je veux pas qu'il soit titulaire, attention, pas rentrer dans la caricature non plus. Je dis simplement que si on pense que le profil de Lacazette ne fit pas avec l'équipe de France, c'est que alors c'est quoi le profil qui fit avec l'équipe de France?
C'est simple,
on est quand même sur un joueur qui sait jouer au dos, Sofiane, but, qui sait prendre la profondeur, qui est participatif,
c'est le joueur qui sera au service de Mbappé, c'est non, ça.
En équipe de France, c'est soit t'es très costaud.
Il est pas costaud, Lacazette.
Non, mais attends, c'est pas Giroud. Soit t'es très très bon de la tête, c'est-à-dire
que Giroud par moment.
Non, mais Giroud, c'est quand même un mec qui de la tête est un des meilleurs joueurs.
Dos au but surtout, c'est ça la différence.
Ou alors, des fois avec Didier Deschamps, c'est un peu ça. Ou alors, il faut courir très très vite, comme c'est le cas pour Kylian Mbappé, ou pour un joueur comme Martial quand il était sélectionné, ou comme Randall Kolo Muani maintenant. Le problème, c'est que Lacazette est bon partout, mais est-ce qu'il a une qualité où il est excellent?
Je ne sais pas, tu peux pas empêcher Sofiane d'avoir raison sur le fait de dire que dans un groupe de 23, d'avoir un Alexandre Lacazette sur le banc et pour un match serré où faut un mec qui a un instinct de tueur.
Pas maintenant.
Non, mais en termes de profil, il mériterait amplement.
Deschamps.
Je libère, détaillera nos informations sur la liste, hein, que Deschamps annoncera demain. Côté attaquant, a priori, Moussa Diaby, Marcus Thuram pourraient faire les frais des retours de blessures d'Ousmane Dembélé et de Christopher Nkunku, notamment, qui a été bon sur les 5 dernières journées avec le RB Leipzig, 4 buts, 3 passes décisives. Voilà pour les infos, les gardiens. On verrait Maignan, Areola sera là aussi, Brice Samba également. D'autres infos à venir avec Gilbert. Merci Kevin.
Merci à toi.
Merci
à
Jonathan. Merci Sophia, c'est un plaisir de partager ce Génération After avec vous de 20h à 22h comme tous les soirs. Demain, finale d'Europa League, bien sûr, entre le CVFC et la Roma sur RMC dès 20h. Le match à 21h. On sera ensemble pour en parler. L'After arrive jusqu'à minuit avec Daniel, Gilbert et Flo Gautreau. Bye bye.